Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à tous, il est 7h et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ça passe pour le budget de la Sécurité sociale. 247 voix pour, 234 contre. Premier pari réussi pour Sébastien Lecornu. Ce n'est pourtant qu'une étape. Le marathon budgétaire se poursuit. Les images de cet enfant de 8 ans humilié, tondu en guise de punition, filmé par ses éducateurs de l'aide sociale à l'enfance à Paris. Une enquête pour violence volontaire est ouverte. Et l'OM, vainqueur au millimètre hier soir en Ligue des Champions face aux Belges de l'Union Saint-Gilloise. 3 buts à 2.
Pour 247 contre 234. L'Assemblée nationale a adopté.
Le vote du budget de la Sécurité sociale, et ça s'est joué à pas grand-chose.
13 voix arrachées par le Premier ministre qui, sans majorité, ni 49-3 et un bloc central divisé, décroche une première victoire, fruit de tractations avec les oppositions. Parmi elles, la suspension de la réforme des retraites. Elle s'apprête à être appliquée dès le mois de janvier pour 3,5 millions de personnes. Mais vous allez l'entendre, le sujet continue de diviser ces Français rencontrés par Amélie Courté et Cassandre Brault.
Pierre a manifesté contre la réforme des retraites. Alors sa suspension votée par les députés, il estime d'abord que c'est une bonne chose.
Parce qu'elle a socialement pas du tout été acceptée.
Mais cet ingénieur de 27 ans reste méfiant.
Si la suspension de la retraite, c'est juste une manière de mettre ce sujet sous le tapis, mais de le ressortir plus tard tel quel, moi ça me satisfait pas. Moi ce que je veux, c'est qu'il y ait de nouveau une vraie discussion.
Car le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit uniquement la suspension jusqu'en 2028. Un retour en arrière que regrette Sophie, 57 ans.
La population vieillit de plus en plus. Il faut les financer aussi, ces retraites. Il y a des pays, ils sont à 70 ans en Europe. Hein.
Pourtant, elle l'assume, la réforme des retraites.
J'étais pas très pour au début, mais je pense que c'était un mal pour un bien.
Paul, lui, soutient cette réforme depuis le début. Il s'inquiète des conséquences économiques de cette suspension.
On décale juste le problème de quelques temps, mais à un moment, il va falloir prendre les décisions. Ce qui manque en France, c'est du courage politique.
D'après le ministère du Travail, le coût total de la suspension est estimé à 300 millions d'euros l'an prochain, près de 2 milliards en 2027.
Et donc le texte va désormais repartir au Sénat avant un retour à l'Assemblée nationale. Sébastien Krebs, chef du service politique, nous rejoint. Les ennuis ne sont pas terminés pour Sébastien Lecornu. Le marathon budgétaire, je vous le disais, se poursuit. Le budget de la Sécurité sociale, ce n'était qu'une première étape. Sébastien et le Premier ministre en est bien conscient.
Oui, d'ailleurs, pas d'effusion de joie. Hein. Hier soir, du côté de Matignon, il n'était pas question pour Sébastien Lecornu de célébrer d'une manière ou d'une autre cette première victoire. Le Premier ministre n'est pas apparu. Il n'était pas dans l'hémicycle au moment du vote. C'est en petit comité qu'il a pris la parole devant quelques ministres réunis à Matignon dans la soirée avec un message très clair. Selon nos informations, ce vote n'est qu'une étape, a-t-il averti. Les semaines à venir seront sans doute encore plus difficiles que les précédentes. Voilà les ministres prévenus et appelés à se remettre immédiatement au travail sur l'autre budget, celui de l'État, dont personne ne voit à ce stade comment il pourrait être adopté dans les temps, c'est-à-dire avant le 23 décembre. Le PAT 2 avec le PS risque d'être bien plus périlleux, notamment sur l'épineuse question de la fiscalité des plus riches et des grandes entreprises. On mesure le chemin accompli, résumait un ministre hier soir, mais nous ne sommes qu'au milieu du gué.
Sébastien Krebs, chef du service politique RMC. Il est 7h04, une enquête ouverte pour violence volontaire à Paris après cette scène d'humiliation sur un enfant de 8 ans filmé en février dernier. Une vidéo révélée par nos confrères de France Info. On y voit Elliot, ce jeune garçon placé dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, torse nu, assis sur une chaise tendue par l'une de ses éducatrices. Elle a été suspendue par l'association qui gère le foyer, sanction tardive. 10 mois après les faits est signalé Martin Bourdin à la justice dès le mois de septembre.
Un signalement effectué par l'avocat de la maman auprès d'un juge des enfants resté sans suite jusqu'à hier. Aucune plainte n'est déposée. À ce moment-là, la maman ayant peur que son fils soit placé dans un autre foyer plus éloigné de chez elle. L'équipe éducative de son côté est immédiatement rappelée à l'ordre par les responsables de la structure, mais pas de sanction dans un premier temps. Une enquête administrative est bien lancée par la ville de Paris qui gère la prise en charge des enfants placés, mais elle aboutit à un simple remaniement des équipes. C'est la fuite dans les médias hier des messages WhatsApp échangés par les éducateurs où il présente clairement ce rasage à blanc comme une sanction qui pousse le parquet à ouvrir une enquête et la structure à lancer des procédures disciplinaires pour éloigner les éducateurs des enfants, notamment celle qui a rasé le garçon de 8 ans, suspendu donc depuis hier soir.
Et cette humiliation cruelle de cet enfant par ses propres éducateurs. On y revient juste après votre journal, Thibault, puisque Lies Loufoque, qui est un militant des droits de l'enfant, lui-même a été, comme il le dit, trimballé de foyer en famille d'accueil dans sa jeunesse, et il viendra témoigner et réagir juste après votre journal, Thibault.
Les responsables d'un rapport sur la sécurité du Louvre entendu ce matin par la commission de la culture du Sénat, 2 mois après le casse du musée, et ce matin, RMC vous révèle en exclusivité les conclusions de cette enquête administrative lancée dans la foulée. Vétusté du PC de sécurité, agent insuffisamment formé ou encore manque global de pilotage pour la sécurité du site. Tous les détails de cette enquête à retrouver dans le journal de 8h. Un rendez-vous sur RMC, la défenseur des droits, Claire Hédon, votre invitée Apolline à 7h40. Elle publie ce matin avec l'Organisation internationale du travail le 18e baromètre sur les discriminations dans l'emploi que vous révèle RMC en exclusivité. La difficulté de trouver un travail selon son âge, sa couleur de peau, son origine, mais aussi, Antonin Audion, son âge, à commencer par les plus jeunes.
Il a fallu 5 mois à Nice pour trouver un travail, et pour cet informaticien de 23 ans, aucun doute, c'est à cause de sa jeunesse.
C'était vraiment compliqué. J'ai eu une trentaine de refus sans entretien, donc ça a été quand même assez long. Les entreprises avaient peur d'engager un jeune sans expérience.
Imzan a 21 ans, il a trouvé un travail dans la grande distribution et il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter un emploi peu qualifié.
Je travaille au drive, donc c'est beaucoup axé sur le physique. Pour l'instant, ça ne me dérange pas trop, mais je sais que sur le long terme, ça pourrait me fatiguer.
Et le jeune homme en est convaincu, son âge l'empêche d'accéder à une autre mission au sein de son entreprise.
Si j'avais le choix, moi personnellement, j'aurais choisi quand même de faire un petit peu plus d'administratif.
À la recherche, elle aussi, de plus de responsabilités, Adeline, 28 ans, a changé d'employeur.
Dans son travail, justement, je suis partie parce qu'on me trouvait trop jeune pour passer responsable, alors que j'avais déjà fait le tour. J'avais déjà fait 3 ans au même poste. Donc j'ai demandé à évoluer. On m'a dit que j'étais un peu trop jeune pour gérer une équipe, alors que j'avais toutes les expériences pour.
En plus de l'âge, selon la défenseur des droits, la couleur de peau ou l'orientation sexuelle aggrave les discriminations au travail.
Les jeunes de moins de 16 ans n'ont plus accès aux réseaux sociaux ce matin en Australie, déconnectés par une loi. C'est une première mondiale. Le sujet est au cœur des débats en France, et notamment la volonté d'Emmanuel Macron qui veut en interdire l'accès aux moins de 15 ans. Le sujet sera débattu à l'Assemblée nationale en janvier. Sans Dembélé, malade, ni Chevalier, toujours blessé, Paris se déplace en terre basque ce soir en Ligue des Champions face à Bilbao. Rendez-vous à 21h sur RMC au lendemain des succès de Monaco, vainqueur de Galatasaray 1-0, et de Marseille qui s'est fait peur hier soir en Belgique, opposé à l'Union Saint-Gilloise. L'OM s'impose 3-2. Florent Germain sauvé par 2 fois par la VAR.
Oui, 2 buts belges refusés pour des hors-jeux microscopiques avant une parade miracle du gardien Geronimo Rulli. L'OM a arraché cette victoire en souffrant hier soir. Le Danois Pierre-Emile Højbjerg savoure.
On a beaucoup souffert à la fin et ça nous a fait un peu mal. Mais tu sais, dans des moments où tu souffres et tu passes le cap et tu prends les points, Ça donne beaucoup d'énergie, ça donne beaucoup d'espoir.
L'OM a désormais 9 points dans cette Ligue des Champions et entrevoit une place en barrage. Le milieu Geoffrey Kondogbia ne veut pas faire la fine bouche.
Les équipes qu'on regarde en haut, c'est des gros poissons d'Europe. Donc c'est un signe qu'on est en progression. C'est un signe qu'on est en train de bien faire les choses. Donc il faut rester dans cette dynamique-là. Il faut faire preuve d'humilité, mais de courage aussi pour continuer sur cette lancée.
Roberto De Zerbi a eu la réaction d'orgueil qu'il attendait. Son OM peut se concentrer sur le choc de dimanche en championnat face à Monaco.
Et à retenir également de cette soirée, le premier doublé de Jules Koundé qui permet en 3 minutes seulement à Barcelone de s'imposer à Francfort 2-1.
C'était le journal de Thibaut Texer au 32-16. Vous réagissez à ces tarifs, double tarif désormais. Après le Louvre, c'est le château de Versailles qui s'y met et qui veut faire payer plus cher, 3 euros de plus, pour les touristes qui ne seraient pas issus de l'Union européenne. Et bonjour Christelle. Christelle, oui, qui nous appelle de Cahors. Comment allez-vous, Christelle?
Eh bien, écoutez, ça va bien, oui, vous-même.
Eh bien, ça va pas mal, mais j'ai l'impression que vous, ça vous choque de faire payer plus cher les étrangers.
Oui, absolument, parce que en fait, nous vivons en grande partie du tourisme de notre beau pays. Alors, je ne comprends pas pourquoi cette discrimination, et surtout ne faisons pas fuir les touristes et n'étendons pas le phénomène, à, pourquoi pas, aux hôtels, aux places de concert, car à partir de là, toutes les déclinaisons sont possibles.
En fait, vous avez peur que ce soit le début d'une dérive.
Absolument, hein, une dérive qui peut s'étendre à toute, non seulement à la culture, mais pas seulement. Et puis quelque part, l'entretien des infrastructures, le coût de la maintenance, de la sécurité, n'est-il pas le même pour tout le monde?
Alors, pourquoi évidemment, après une partie des... Enfin, les Français payent déjà des impôts pour pouvoir financer le budget de la culture. Donc, dans un sens... C'est marrant, moi, Christelle, j'entends parfaitement votre argument. J'ai entendu l'invité tout à l'heure chez Mathieu et Pascal. Moi, franchement, ça ne me choque pas parce que je trouve que quand on va à l'étranger, payer 3 euros de plus pour pouvoir visiter un château aussi magnifique que Versailles, je ne pense pas que ce soit de nature à faire fuir les étrangers qui viennent de loin et qui viennent de toute façon pour ça. Mais il y a des pays d'ailleurs où les ressortissants du pays ne payent carrément pas, pour lesquels c'est une forme de gratuité. C'est gratuit jusqu'aux 18 ans en France, mais pas pour les autres. En tout cas, Christelle, merci beaucoup à vous d'avoir témoigné au 32-16 comme Christelle. Vous connaissez le chemin. Le 32-16. La France ne sait-elle plus protéger ses enfants? Voilà ce dont on va parler dans un instant, parce qu'il y a eu cette dérive, encore une dérive dans un foyer pour mineurs. Une enquête a été ouverte hier pour violence volontaire après la découverte d'une vidéo qui montre un enfant de 8 ans tondu, humilié par ses propres éducateurs pour, je cite, le punir. Bonjour Lies Loufoque.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC ce matin. Vous êtes militant des droits de l'enfant. Vous avez vous-même été, et je vous cite, c'est ce que vous racontez, trimballé littéralement de foyer en famille d'accueil dans votre jeunesse. Protégeons nos enfants. C'est votre cri du cœur ce matin. Et vous nous le dites sur RMC dans un instant, avec vous qui appelez pour témoigner au 32-16. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC et RMC Story. Ces images qui retournent le cœur, tondu à 8 ans par ses propres éducateurs pour soi-disant le punir. On a découvert hier cette histoire qui s'est déroulée à Paris dans un foyer parisien en février dernier. Elliot, garçon de 8 ans placé dans ce foyer, a été filmé torse nu en train de se faire raser le crâne. Vidéo diffusée dans une boucle WhatsApp interne. Bonjour Lies Loufoque.
Bonjour.
Vous êtes militant des droits de l'enfant, ancien membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Vous-même, vous êtes un ancien enfant placé en foyer et en famille d'accueil pendant 18 ans. Une enquête a finalement été ouverte hier soir. Les faits, ils se sont passés il y a 10 mois. Mais comment est-ce encore possible ?
C'est une bonne question. Comment est-ce encore possible ? Parce que tout ce qui aurait pu permettre d'éviter ce type de drame n'a pas été mis en œuvre. Je pense à l'instance nationale de contrôle indépendante que nous appelons de nos voeux depuis une dizaine d'années et que nous n'avons toujours pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des établissements de l'aide sociale à l'enfance, qu'ils soient publics ou privés, qui ne sont toujours pas contrôlés à ce jour. Et c'est là où se joue évidemment un drame humain phénoménal. C'est que plutôt que de prévenir la maltraitance institutionnelle, on la laisse se perpétuer dans une forme de clandestinité parce que nous n'allons pas vérifier ce qui se passe derrière les murs de ces établissements. Et on se retrouve avec des enfants en grande souffrance, des professionnels en nombre insuffisant, parfois pas formés, parfois pas diplômés. Parce que si ces violences, elles existent, Madame de Malherbe, c'est parce que dans notre système de protection de l'enfance, il n'y a pas les garanties minimales qui permettent d'apporter cette protection effective. Pourquoi ? Parce que les diplômes ne sont toujours pas obligatoires. C'est-à-dire que
vous pouvez devenir éducateur entre guillemets, de ces jeunes qui sont ceux que l'on devrait protéger plus encore que les autres.
Évidemment.
Et que l'on livre...
Oui, et puis
à la folie quotidienne.
Voilà, il n'y a ni obligation de formation, ni obligation de diplôme. Il n'y a pas de ratio d'encadrement. Vous, quand vous mettez vos enfants en crèche, en centre de loisirs, en colonie de vacances, la loi va être très claire. Elle va vous dire, il faut un professionnel diplômé pour tant d'enfants, en fonction de leur tranche d'âge. Ces normes-là sont complètement inexistantes en protection de l'enfance, ce qui fait qu'on peut très bien se retrouver avec deux éducateurs pour 40. Évidemment, on ne peut absolument pas les accompagner dans de bonnes conditions avec aussi peu de personnel, sans que cela soit illégal ou ne dérange personne.
La mairie de Paris aurait été mise au courant dès le mois de septembre, c'est ce que raconte l'avocat de la famille.
Je suis effaré, profondément en colère, parce que si la mairie de Paris a été informée de ces faits en septembre, la direction de l'établissement, elle, a bien été mise au courant dès le mois de mars. Que s'est-il passé entre février et décembre ? Que s'est-il passé entre le moment où la direction de l'établissement découvre les faits et le moment où la ville de Paris en est informée en septembre ? Que s'est-il passé entre le mois de septembre et le mois de décembre ? On se fout de nous, c'est-à-dire que même quand les enfants révèlent ce qu'ils subissent, même quand c'est connu, quand ces faits sont documentés par des vidéos diffusées sur des groupes WhatsApp, il ne se passe rien. Que faut-il de plus ? Des morts à l'aide sociale à l'enfance, on les compte à la pelle. Depuis l'été dernier, depuis le mois de juillet, 10 enfants placés ont péri dans le cadre de leur placement. Et la situation continue de s'empirer.
10 enfants ont péri alors qu'ils devaient être sous protection.
Je pense à Lily qui est morte dans un hôtel. Je pense à Nour qui s'est jeté dans la Seine parce qu'il a été abandonné dans un hôtel. À Jess Seba qui a été poignardé regardé par un autre enfant placé, lui aussi dans un hôtel, à Anthony Lambert qu'on a retrouvé nu dans un camping, mort dans un champ, parce que il avait été lui aussi livré à lui-même sans aucun éducateur à ses côtés. C'est inadmissible.
Ce sont des enfants qui cherchent protection.
Évidemment,
auprès,
bien sûr. Et ce sont des enfants qui ont de gros besoins, qui ont besoin de professionnels solides à leur côté, qui ont besoin qu'on contrôle, que la qualité d'accueil soit satisfaisante.
L'État est censé protéger ses enfants. Je vais même vous dire, Yas Loufoque, on a appris ce week-end qu'un jeune enfant était victime de graves violences par sa mère dans un TGV. Et on dit, et on se réjouit heureusement que le signalement a été fait, et on nous raconte que la mère a été ensuite entendue, que le jeune a été mis dans un foyer le temps de le protéger. Et moi, immédiatement, mon cœur s'est serré en me disant, mais heureusement qu'il a été arraché à, semble-t-il, cette mère défaillante et violente. Mais est-ce que de l'autre côté, lorsque l'on le met dans un foyer, il y aura trouvé la tendresse, l'affection, la protection nécessaire?
C'est la question, et c'est la grande loterie aujourd'hui. Si je n'ose même pas, je pourrais même parler de roulette russe, en fait. Mais c'est la grande loterie à l'aide sociale à l'enfance. C'est que, en fonction du département où l'on est, en fonction du lieu où l'on est placé, on aura plus ou moins de chances. Et cette réalité, elle est absolument tragique.
Parce qu'aujourd'hui,
on évalue la balance bénéfice-risque dans le système de protection de l'enfance.
En fait, on en est là à se dire, bon, où est-ce que c'est le moins pire, quoi?
Voilà, exactement. Et 77% des magistrats, des juges, des enfants ont au moins renoncer une fois à prendre une mesure de protection parce qu'il savait que le placement serait beaucoup plus préjudiciable qu'un maintien de l'enfant dans sa famille. Le système de protection de l'enfance aujourd'hui n'est plus en mesure de fonctionner. Il n'y a plus de place. Des enfants dorment sur des matelas à même le sol ou sur des lits de camp parce que tout déborde, tout explose de partout. Il n'y a plus assez de professionnels. Les familles d'accueil désertent, elles ne sont pas remplacées. Plus personne n'a envie d'effectuer ces métiers qui, par ailleurs, sont extrêmement mal payés. Un éduc à l'ASE dans les années 80, c'était 2,5 fois le montant du SMIC. Aujourd'hui, en 2026, bientôt 2026, c'est le SMIC plus 150 euros. Enfin, je veux dire, on peut pas faire un travail correct avec des conditions aussi pourries, en fait.
Je reçois tout à l'heure, Yas Loufoque, la défenseuse des droits.
J'espère qu'elle se saisira sur cette affaire. Je sais qu'elle est très impliquée sur ces sujets et je la remercie. Maintenant, il faut aller regarder ce qui se passe et pourquoi cette chaîne de dysfonctionnement n'a pas permis à ces faits d'être révélés beaucoup plus tôt.
J'espère qu'elle
mènera l'enquête.
À 7h40. Merci, Yas Loufoque.
Merci à vous.
Merci de votre engagement et de votre témoignage. Il est 7h20 sur RMC et c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, depuis hier, l'expression, je cite, « sale conne » utilisée par Brigitte Macron à propos des militantes féministes qui avaient tenté d'annuler le spectacle d'Harry Habitant. Cette expression, elle est beaucoup commentée et c'est pourtant pas la première fois que des mots vulgaires s'invitent en politique.
Oui, bien sûr, on se souvient du castop of con de Nicolas Sarkozy, mais le plus vulgaire de tous, le plus grossier, c'était Napoléon qui insultait tout le temps et tout le monde.
Vous nous le dites dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, après les propos de Brigitte Macron, la polémique se poursuit à la fois sur le fond, mais sur les mots. L'expression « sale conne » qui est donc reprise par de nombreuses internautes, les mots de la première dame au sujet donc des militantes féministes qui avaient voulu perturber le spectacle du comédien Harry Habitant. Ces propos, ils sont jugés insultants.
Oui, ce qui choque évidemment, c'est que Brigitte Macron emploie des gros mots. Hein. Précisons quand même le cadre de cette vidéo publiée lundi sur les réseaux. Il s'agissait d'une conversation privée, pas devant la presse, et la première dame ne désignait personne nommément.
Bon, on est d'accord que le mot « conne », ça a quand même toujours été une insulte.
Eh bien, pas toujours. Hein. Ah. Pas toujours, c'est même plutôt récent. Hein. « Conne », ça vient du mot « con ». Con, à l'origine, ça désigne le sexe de l'anatomie féminine, donc ça n'avait rien d'une insulte. Ça ne le devient qu'au XVIIIe siècle, et ça désignait quelqu'un de pénible hein, et d'un peu abruti. Depuis, le sens n'a pas beaucoup changé.
Et avant ça, qu'est-ce qu'on employait comme insulte?
Alors, pendant longtemps, la pire insulte, c'était de faire des remarques sur ce qui était lié au corps, hein, au physique. Par exemple, une insulte qui existait au Moyen-Âge, c'était « tu pues des dents ». Tu pues des dents, ça voulait dire ce que vous imaginez, hein, mais ça voulait aussi dire tu es un imbécile. Alors on avait d'autres insultes à cette époque, hein, par exemple putier, ça désignait les hommes qui avaient des morts dissolues. Il y avait bien sûr l'équivalent pour les femmes, c'était putrelle, ça voulait dire que vous étiez une débauchée, c'est un peu l'ancêtre d'une putain.
Est-ce qu'il y arrivait aux hommes politiques d'être vulgaires?
Alors les rois de France étaient très polis, hein. C'était d'ailleurs leur spécialité, la politesse. La vulgarité arrive dans le langage politique avec la Révolution française. Et alors, notre chef d'État le plus grossier et le pire de tous, c'est Napoléon Bonaparte. Il avait insulté un ministre en lui disant « vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Il n'hésitait pas non plus à insulter ses collaborateurs en public, hein, en leur disant d'aller se faire foutre, que c'était des cons, y compris d'ailleurs à l'écrit. Un jour, quelqu'un lui parle de l'Europe et devinez ce qu'il lui a répondu, Apolline. Il lui a répondu, l'Europe, c'est une vieille putain pourrie. Ah voilà, oui. C'était l'ambiance. Hein.
L'Europe, une vieille putain pourrie, voilà. D'accord. Plus récemment, on a des exemples de grossièreté dans la bouche des politiques.
Alors, en général, les politiques essayent quand même d'être un peu spirituels, hein, fins, mais parfois, évidemment, ça déborde. Hein. C'était par exemple le cas de Georges Clemenceau, qui était connu pour ses mots d'esprit, mais aussi pour son côté un peu cash. À propos du Premier ministre britannique qu'il trouvait très bavard, Clemenceau avait déclaré « Ah, si seulement je pouvais pisser comme il parle !» On se souvient donc de Nicolas Sarkozy, président, qui, pour répondre à une personne qui l'invectivait au Salon de l'Agriculture, avait lâché « Casse-toi, pauvre con !» Ça avait beaucoup fait parler. Et dans le même genre, mais plus élégant, il y a Winston Churchill. Un jour, en public, une dame lui dit « Si j'étais votre femme, je vous donnerais du poison. » À quoi Churchill avait répondu « Et moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais. » Voilà.
Arthur Chevalier, 7h25, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et salut Arnaud.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu.
Oui, le budget est passé, il a voté contre et il doit être un peu énervé quand même, il faut qu'il décompresse. Une petite soirée Chemsex, hein, ça lui fera du bien à Sébastien Chenu. Vous vous souvenez le lapsus sur les soirées Chemsex. Ce matin, on peut être fier d'être français. Nos députés ont réussi à 13 voix près à se mettre d'accord sur un courageux budget de la sécurité sociale déficitaire de seulement 20 milliards.
Oh là là. C'est français.
On est là, ouais, on a quelque chose, ouais. Les autres pays nous regardent, ils font, mais ils sont débiles ou quoi? Pourquoi ils sont contents? Ursula von der Leyen, elle va débarquer, elle va nous raser la tête pour nous punir. C'est français, c'est des gamins insupportables, faut les discipliner.
Oh
en tout cas, Sébastien Lecornu, c'est un redoutable négociateur. Il a réussi, en cédant tout à la gauche, à arriver à un compromis. C'est bien la méthode Lecornu. Vous imaginez notre Premier ministre pendant un cambriolage? Donne-moi ton fric ou je te bute. Oui, monsieur, voilà mon portefeuille. Attendez, les clés de ma voiture. Attendez, partez pas. Je suis vagabond. J'avais aussi caché du liquide dans mes chaussettes. Attendez. Non, c'est bon, monsieur Lecornu, on va y aller parce que sinon on va être trop chargé. J'avais fait un gâteau. Vous resterez bien mangé quand même. Lecornu au poker, il a 20 milliards. Il te met 20 milliards alors qu'il a qu'une paire de deux et il gagne, le salopard. C'est MacGyver, notre Premier ministre. Tu lui donnes deux bouts de ficelle, un chewing-gum et une Monique Barbu. Il sort un gouvernement, un budget et une tondeuse à gazon. Et là, on va sauver la France avec ça. Quel génie. Autre dossier sur lequel faudra interroger Sébastien Chenu, la réouverture des maisons closes. C'est au programme du RN, là. C'est une idée que Jordan Bardella aurait pu avoir s'il avait visité, ne serait-ce qu'une fois, Bruxelles. Mais comme il y va jamais au Parlement européen, et ben c'est Jean-Philippe Tanguy qui a eu l'idée et qui prépare une proposition de loi. Donc elle devrait s'appeler la loi Tanguy, vu qu'en plus elle va changer la vie de tous les hommes qui vivent jusqu'à 35 ans chez leurs parents. Bah, c'est des Tanguy. En tout cas, un parti qui est pour la rouverture des maisons closes et qui s'oppose à un budget déficitaire, je sens que DSK va bientôt prendre sa carte au Rassemblement National. On l'aura pas vu venir et on l'aura eu. Allez, rendez-vous avec Sébastien Chenu à 8h30.
Merci Arnaud. Dans un instant, la météo et le journal. Vous êtes bien sur RMC, il est 7h27. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Danjon. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une première mondiale en Australie. Les réseaux sociaux sont désormais interdits à tous les jeunes de moins de 16 ans. Un exemple à suivre pour la France. Une mère de famille endeuillée lance un appel très fort ce matin sur RMC. Une bonne chose de faite pour Sébastien Lecornu. Mais le plus dur reste à venir maintenant que le budget de la Sécu a été adopté. Il va falloir se pencher sur celui de l'État. Et puis l'explosion du trafic de protoxyde d'azote en région parisienne. RMC a pu consulter une note de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, qui confirme le phénomène.
C'est officiel, les Australiens de moins de 16 ans n'ont plus accès aux réseaux sociaux.
Une mesure qui a fait couler beaucoup d'encre et qui vient donc d'entrer en vigueur. TikTok, Instagram, Snapchat, autant d'applications désormais interdites aux adolescents australiens, avec la mise en place de contrôle des comptes déjà existants et de vérification aux inscriptions. Une mesure que certains aimeraient voir appliquée en France, notamment cette mère de famille, Emmanuelle, dont le fils s'est suicidé en septembre 2024. Conséquence, selon elle, du cyber cyberharcèlement qu'il a subi et de l'algorithme de TikTok. Elle témoigne ce matin au micro RMC de Marion Gauthier.
450 jours que Clément est mort et qu'Emmanuel cherche des réponses. C'est elle qui découvre des conversations WhatsApp, des insultes, des moqueries, puis les réseaux sociaux de son fils.
On a trouvé des horreurs. Donc l'algorithme TikTok savait qu'il allait pas bien. Et l'algorithme l'a enfermé là-dedans. Il y a une image du haut d'un pont au crépuscule et un texte. C'est quand tu seras plus là que les gens verront la valeur que tu as.
En septembre 2024, Clément se jette d'un pont. Depuis, sa mère étouffe.
Le monde numérique est indécent.
Il doit être régulé, insiste celle qui n'avait pas autorisé son fils à s'inscrire sur les réseaux sociaux.
Bien sûr qu'il n'aurait pas dû pouvoir s'inscrire.
Mais aucun contrôle de l'âge n'est imposé à ces plateformes en France.
Les gamins continuent à se faire aspirer par les algorithmes. À un moment donné, ça suffit.
Emmanuel dénonce la lenteur de la justice, des politiques. En interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, l'Australie ouvre une voie, dit-elle, vers l'action.
Mais ça ne suffira pas. À un moment donné, c'est l'algorithme lui-même. Les images qui sont générées, auxquelles mon fils a été confronté, à aucun moment c'est signalé.
Sentiment d'urgence, elle a écrit au président de la République et sera à Saint-Malo. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit y avoir un échange avec les lecteurs de Ouest-France sur les réseaux sociaux.
Et ne manquez pas La Voix de droite ce matin à 7h50, Louis Sarkozy, il estime que la France doit suivre l'Australie et interdire purement et simplement les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Rendez-vous avec Louis Sarkozy à 7h50.
Et lui peut souffler. Sébastien Lecornu a arraché de justesse le vote du budget de la Sécurité sociale à 13 voix près. Le Premier ministre qui décroche une première victoire. Une adoption 149-3, ça n'était plus arrivé depuis 2022, mais désormais il va falloir réitérer l'exploit avec le budget de l'État. Le texte revient la semaine prochaine à l'Assemblée et la mission s'annonce hautement périlleuse, Cyprien Pézeril.
Oui, même si pour Gabriel Attal, le patron de Renaissance, cette haie franchie hier démontre qu'il est possible de passer la suivante.
J'entendais certains dire qu'on ne pouvait pas voter un budget de la sécurité sociale. On y est parvenu. Et donc je ferai tout pour qu'on puisse trouver un compromis sur le budget de l'État. Je pense que c'est possible.
Un optimisme réfréné par Olivier Faure quand on parle d'accord au patron du PS.
Nous en sommes très très loin.
Le budget est vraiment dégueulasse. Je ne vois pas de chemin, lance même un de ses collègues. Jusqu'à présent, Olivier Faure et ses troupes ont obtenu peu de victoires sur ce texte. La taxe Zuckmann sur les hauts patrimoine a été rejeté.
Si le gouvernement veut reproduire l'exploit de faire voter un budget, il faut qu'il ait la même approche. C'est évidemment de faire des concessions à une condition, c'est celle de la justice et celle de la protection des plus faibles.
Des négociations de couloirs vont continuer, déplore le RN Laurent Jacobelli.
Je ne vois pas comment un PLF dont tout le monde dit qu'il est un mauvais budget pourrait passer. Mais avec des gens sans foi, tout est possible puisqu'il n'y a plus de conviction, il n'y a plus que des intérêts.
Mais au-delà d'une adoption du budget par un vote, il existe la loi spéciale, le 49-3, les ordonnances. Bref, le gouvernement a toujours les outils pour s'en sortir, anticipe un président de groupe.
Il est 7h34 sur RMC et c'est donc bien le protoxyde d'azote qui est en partie responsable de la mort de 3 jeunes la semaine dernière dans le Gard.
Un terrible accident, souvenez-vous, à Alès où la voiture des adolescents avait fini sa course dans la piscine d'un pavillon. Une semaine après, les analyses toxicologiques confirment que le conducteur de 19 ans avait consommé de l'alcool, du cannabis et une forte quantité de gaz hilarant, une substance qui inquiète de plus en plus les autorités tant sa consommation se démocratise, à tel point que l'office anti-stupéfiant a dû envoyer une note d'analyse à l'ensemble des services de police. Vous avez pu la consulter, Guillaume Bier.
Oui, l'OFAST alerte sur ce trafic en pleine croissance dans l'Hexagone, avec, comme pour la drogue, des filières complètes d'importation de plusieurs dizaines de tonnes, notamment depuis la Belgique et les Pays-Bas. Avec aussi un marketing à destination des jeunes, notamment des étiquettes colorées, des goûts fruités et de la promotion via les réseaux sociaux. Dans leur analyse, les policiers soulignent que la loi a été renforcée en 2021 pour interdire la vente du protoxyde d'azote aux mineurs. Mais ce gaz n'est pas classé comme un stupéfiant, alors les poursuites judiciaires sont très rares. En revanche, les conséquences de la consommation sont bien réelles. Rien qu'en région parisienne, plus de 1200 interventions de police sur les 10 premiers mois de l'année, plus 52% par rapport à l'an dernier.
7h36, c'était une belle soirée hier pour les clubs français engagés en Ligue des Champions. Monaco a battu 1-0 à domicile les Turcs de Galatasaray. L'OM est rentré de Bruxelles avec une victoire 3-2 face à l'Union Saint-Gilloise. Et ce soir, le spectacle continue avec le PSG qui se déplace sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Des Espagnols qui paraissent abordables, mais attention, ils ont un atout et il est de taille, un stade mythique et une ambiance de feu, Valentin Jamin.
Oui, à l'entraînement, les Parisiens n'ont pu voir qu'un stade vide, mais impressionnant. 53 000 places toutes occupées ce soir dans l'enceinte appelée la cathédrale du football, qui va faire du bruit, annonce Pépé, supporter.
Dans la rue, il y a les couleurs de l'équipe partout. C'est une énergie contagieuse. Pendant le match, ça met des frissons. C'est une sensation incroyable. Le Real, le Barça, quand ils viennent à la cathédrale, parfois pour eux, c'est un cauchemar.
En tribune, tout le monde porte le maillot rouge et blanc pour soutenir une équipe composée uniquement de joueurs nés ou formés au Pays Basque et qui n'a jamais connu la deuxième division. Luis Fernandez, ancien technicien du PSG, a aussi entraîné ici 4 ans jusqu'en 2000.
Je m'en souviens encore et je peux dire que c'était énorme. C'était fantastique parce qu'ils aiment cette équipe, ils aiment leur club, ils l'adorent et ils le portent. Ils ont un devoir de ne pas décevoir leurs supporters.
Et ça tombe bien, le coach parisien Luis Enrique connaît très bien l'environnement. Il y est allé à la tête du Celta Vigo puis du Barça.
J'ai eu l'opportunité de parler à mes joueurs sur l'ambiance qu'on va avoir. C'est merveilleux de jouer dans cette ambiance.
Et certes, Bilbao a déjà perdu 4 fois dans sa cathédrale cette saison, mais vient d'y battre l'Atlético de Madrid ce week-end.
Bilbao PSG, coup d'envoi à 21h à vivre sur RMC.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori, c'est le numéro 4. Aujourd'hui, la Rose du Gers. L'outsider, c'est le 14. Lagune Pire.
C'était le journal d'Élise Dangean. Plus que quelques jours. Mais oui, c'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure de fêter Noël ensemble sur RMC. À gagner aujourd'hui avec Micromania Zing, des PS5 et des Nintendo Switch 2. En plus de la Miam Box spéciale Noël. Oui, c'est une boîte mystère avec une sélection de friandises originales pour Noël. Pour ouvrir le calendrier de l'Avent et gagner ces cadeaux, c'est maintenant. Vous envoyez Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16 et on ouvrira ensemble le calendrier de l'Avent. Ce sera en direct à 8h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'âge est la première discrimination pour trouver un emploi. C'est ce que vous nous révélez ce matin, Claire Hédon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la défenseure des droits. Vous publiez ce matin le baromètre des discriminations dans l'emploi. Une grande enquête que vous avez menée auprès de 5000 personnes. Et merci d'en parler en premier sur RMC. Trop jeune ou trop vieux, c'est la première discrimination. Et vous qui nous écoutez, l'avez-vous subi? L'avez-vous observé? Est-ce que vous subissez une discrimination à cause de votre âge? J'attends vos témoignages au 3216 et sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. À tout de suite, 7h39.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Trop jeune ou trop vieux, jamais vraiment la bonne couleur de peau ou la bonne orientation sexuelle, les discriminations au boulot sont en hausse. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour.
Vous êtes la défenseure des droits. Merci d'être sur RMC ce matin pour nous dévoiler en exclusivité les résultats de votre grand baromètre. Vous avez interrogé plus de 5000 personnes. Et parmi les personnes qui se sentent discriminées, 42% d'entre elles affirment avoir eu du mal à trouver un travail à cause de leur âge. Trop jeune et trop vieux, ça touche les deux bouts de la chaîne, j'allais dire.
C'est déjà des choses qu'on a pu démontrer dans nos enquêtes, et ces enquêtes sont particulièrement importantes puisque on ne voit pas la même massification dans nos réclamations parce qu'il y a beaucoup de non-recours. Vous avez effectivement insisté sur un premier chiffre qui est important, c'est la question de l'âge. Ça, c'est vraiment sur la recherche d'emploi. Les deux premiers critères qui sont invoqués, c'est l'âge et la question de l'origine. Et par contre, dans le parcours d'emploi, la discrimination vise deux fois plus les femmes. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont pour nous important. Et les jeunes, effectivement, les jeunes entre 18 et 24 ans ont deux fois plus de risques d'être discriminés que ceux qui ont entre 45 et 54 ans. Deux fois plus. Qu'est-ce que ça dit? Vous rendez compte, pour des jeunes, c'est le moment où ils rentrent dans la vie professionnelle. Quelle image ils ont de la société et du monde du travail quand ils commencent par être discriminés? Et
en fait, On leur dit quoi? T'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience, reviens plus tard.
Vous avez eu un jeune qui a témoigné là tout à l'heure. On leur répond même pas. En fait, à certains moments, ils n'ont même pas de réponse. Et de temps en temps, vous avez tout à fait raison. Dans l'entretien d'embauche, on leur pose des questions sur leur âge, le quartier où ils vivent. Un certain nombre de questions qui sont interdites parce que liées à un critère de discrimination. Pour les femmes, c'est la même chose. Une jeune femme, on va lui demander, mais vous comptez avoir des enfants? Et quand? C'est des questions personnelles qui ne doivent pas être posées. Sauf s'il y a une vraie justification de la poser, parce que le lieu de travail, parce qu'un certain nombre de choses. Mais ce ne sont des questions qui ne doivent pas être posées. Et donc, on est bien rempli de stéréotypes, que ce soit sur les jeunes, sur les femmes ou sur les personnes perçues comme noires
ou arabes. Et ça peut être extrêmement décourageant. Claire Hédon, je voudrais aussi qu'on puisse accueillir le témoignage de Romain, et c'est particulièrement précieux. Bonjour Romain, parce que vous êtes directeur d'un cabinet de recrutement, et donc vos clients, ce sont les boîtes qui embauchent, et eux-mêmes assument en quelque sorte de vous demander de pratiquer ces discriminations.
Bonjour Pauline, merci de me recevoir. Effectivement, j'écoutais très attentivement votre intervenante, qui a tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est exactement ça. Alors nous, aujourd'hui, moi je dirige un cabinet de recrutement de chasse de tête. On fait à peu près 600 recrutements à l'année.
Okay.
Alors ce que je vais dire, moi, ça va concerner quand même les fonctions cadres. Il faut savoir mesurer aussi les propos.
D'accord.
Et savoir faire la distinction entre des ressources en
mais,
fonction des
différents. Mais votre témoignage, ce que vous observez, ce qu'on vous demande.
Alors, aujourd'hui, 90% de mes recrutements sont sur des profils qui ont entre 30 et 45 ans. J'ai de très grandes difficultés aujourd'hui de pouvoir proposer des collaborateurs ou des collaboratrices qui ont au-delà de 54 voire 55 ans. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui il y a une réelle inquiétude des entreprises qui est souvent infondée hein, d'ailleurs sur la capacité des personnes d'un certain âge à pouvoir suivre le rythme, à pouvoir être en adéquation avec aussi la culture de l'entreprise, à pouvoir
s'adapter.
Être en adéquation. S'adapter, exactement, à pouvoir avoir la capacité de pouvoir suivre les outils, les formations, tout ce qu'on va avoir.
Et donc, ils vous disent, c'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que Romain, il vous le dit, c'est-à-dire que vous, il vous passe en quelque sorte un cahier des charges, ils vous disent, voilà, je veux que vous me trouviez tel et tel et tel profil, et clairement, après 45-50 ans, ça les intéresse quasiment pas. Ils vont même pratiquement pas regarder le CV. Romain, je voudrais que Claire Hédon puisse répondre. Et bah,
une agence de recrutement, je veux dire, est aussi responsable de discrimination si, dans ce genre de situation, elle accepte ce que demande l'employeur.
Qu'est-ce que vous répondez à ça, Romain, à votre propre responsabilité?
C'est intéressant. En fait, si vous voulez, il y a ce qui est dit, il y a le non-dit.
Ce qui est non-dit.
Il faut quand même faire la différence et la distinction entre les deux.
J'imagine que c'est un peu plus youx, un peu plus rusé.
Bien sûr. Il y a l'idéal. Il y a bien entendu, vous avez effectivement l'employeur qui a son idéal candidat. D'accord? C'est un peu, on va dire, son mouton à cinq pattes. Nous, en face, moi, je suis tenu par éviter tout ce qui est discrimination et surtout présenter une compétence. D'accord? Mais, vous savez, je veux dire, il n'y a pas plus discriminant que le recrutement. Si vous avez en face, moi je présente un candidat ou une candidate qui est en adéquation avec le cahier des charges et avec l'attendu de mon client, il est libre de très bien dire, écoutez, non, ça ne matche pas, il n'y a pas le feeling. Enfin, vous voyez, il y a tellement aujourd'hui de raisons sur lesquelles on peut dire non, qui ne sont pas, comment dirais-je, mesurable de façon
il va pas vous dire elle est trop vieille, il va simplement vous dire le feeling ne passe
alors,
pas.
Je voudrais vous dire si nous on l'entend.
Comment on
a des réclamants à qui on a répondu, vous êtes trop âgé, c'est pour ça qu'on vous prend pas.
Mais comment on fait pour cet entre-deux, ce moment ce qui est plus sournois
alors,
comme
moi je
le
pense
raconte,
effectivement dans nos recommandations, ce qui est absolument indispensable, c'est d'abord de mieux mesurer ces discriminations au cours du temps, c'est après de former, d'informer à la fois les personnes et les employeurs. En fait, tout ça est lié à des stéréotypes sur les femmes, des stéréotypes sur les jeunes, sur les plus âgés, sur les personnes perçues comme noires ou arabes, puisque sur toutes ces populations et sur les personnes en situation de handicap, c'est important aussi de le rappeler. Et donc, ce sont ces stéréotypes qui portent préjudice à l'embauche, mais je voudrais insister sur le parcours d'emploi. Ces discriminations, on les voit dans le parcours d'emploi.
C'est quoi le parcours d'emploi? C'est du début à la fin et même ensuite
quand
dans l'évolution dans une entreprise.
Exactement, quand vous êtes dans une entreprise, votre évolution.
C'est pas juste l'entrée dans
l'entreprise. Non, exactement. Et sur la question des femmes, c'est deux fois plus dans leur carrière.
Vous parlez d'un plafond de verre qui est toujours existant.
Et alors qu'il y a des programmes égalité. Vous voyez, on n'y est pas encore. Donc il y a la question femmes. Plus elles sont diplômées, plus elles disent être victimes de discrimination. Vous voyez, c'est aussi contre-intuitif. Sur les personnes en situation de handicap, on a toujours l'image de l'entrée dans l'emploi. Nous, ce qu'on voit majoritairement, et ce qui ressort aussi de cette enquête, c'est dans l'emploi. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas gardées dans l'emploi pour des questions de maladie longue durée ou de handicap, avec non-adaptation du poste de travail.
Il faut le dire, il faut le dénoncer. Qu'est-ce que
vous dites à ceux qui en sont victimes ?
Alors, il faut dénoncer, mais on ne va pas faire peser la lutte contre les discriminations uniquement sur les victimes qui ont peur des représailles, qui ne savent pas à quoi ça peut servir, qui ne connaissent pas non plus ce qu'il faut faire. Hein. 4 sur 10 le disent, elles ne savent pas à qui s'adresser. Donc, il faut des programmes de lutte contre les discriminations au niveau national, lancés par le gouvernement, dans les entreprises. Il faut un suivi, il faut faciliter effectivement les recours, et il faut aussi, honnêtement, des sanctions qui soient plus élevées pour que ce soit dissuasif pour les entreprises de discriminer.
Claire Hédon, vous qui êtes défenseur des droits, ce matin à 7h10, Lies Loufoque, militant pour les droits des enfants, était à ce micro. Il revenait sur ce drame, un de plus, j'allais dire, de cet enfant humilié, avec cruauté, rasé par ses propres éducateurs. Il vous lançait en quelque sorte un appel pour vous demander de vous saisir à nouveau, comme vous le faites souvent, de cette question-là. Le ferez-vous ?
Clairement, oui. Nous allons nous auto-saisir de cette situation parce que il y a l'acte lui-même qui est effectivement monstrueux.
Qui remonte à il y a 10 mois.
C'est ça.
Il y a 10 mois.
Et pendant 4 mois, il y a l'acte lui-même. Il y a le groupe WhatsApp avec quasiment personne qui réagit sauf une éducatrice. Il y a un retard pendant 4 mois. On ment à la maman. Et donc, c'est toute cette chaîne qui a dysfonctionné et qui, pour nous, c'est important de réagir. Donc oui, je vous le dis, nous nous auto-saisirons de cette situation absolument épouvantable pour ce jeune.
Merci beaucoup, Claire Hédon, de vos combats. Défenseur des droits, hausse des discriminations à l'embauche avec l'âge, en particulier, vous le disiez ce matin. Et merci à Romain pour son témoignage. Romain, donc, qui s'occupe de recrutement, sa société de recrutement à Nantes. Il est 7h51. Et dans deux minutes, c'est la voix de droite sur RMC. Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour.
Louis, l'Australie l'a fait depuis ce matin. Les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans. Et la France ?
Ouais, l'Australie a choisi de protéger ses enfants. La France doit être radicale et faire pareil.
Vous nous le dites dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec le retour de la série Peaky Blinders.
Et il y a fort à parier qu'on va retrouver ce générique emblématique que les fans reconnaissent. L'Angleterre d'entre-deux-guerres, des gangs de Birmingham qui règlent leurs comptes à coups de lame de rasoir. Et bien 6 saisons après, la saga revient en long métrage. On a une date, une affiche, Peaky Blinders, l'immortel, sur Netflix, le 20 mars. L'affiche, on y voit Cillian Murphy, l'acteur principal, le chef de famille, c'est lui l'immortel, sur un cheval, avec le visage en sang, après avoir chroniqué l'Angleterre des années 20 et 30, Peaky Blinders en film. Ça se déroulera en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. Tous les coups seront permis, promettent les créateurs de la série. Il faut croire que la période était propice aux affaires des criminels. Et puis ça ira plus loin dans les mois à venir, puisque deux nouvelles saisons, une nouvelle génération sont annoncées. Mais on aura l'occasion d'en reparler.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53, et comme tous les mercredis, c'est la voix de droite sur RMC. Louis Sarkozy, bonjour Louis.
Bonjour.
Louis, des centaines de milliers d'adolescents australiens se sont réveillés déconnectés de leur application, puisque le pays a désormais interdit purement et simplement tous les réseaux sociaux pour tous les moins de 16 ans. C'est une décision radicale, et pour vous, Louis, l'Australie a raison.
Oui, je suis pour, il faut agir et vite, et je le dis en libéral, c'est important de le préciser, parce qu'il ne s'agit pas ici de morale ou de paternalisme, on parle d'un rapport de force totalement déséquilibré, un mineur face à des technologies conçues pour neutraliser sa capacité à choisir. La liberté n'existe pas quand celui qui choisit n'a pas les armes pour résister.
Pourtant, vous êtes souvent opposé aux interdictions, vous avez même défendu la dépénalisation de certaines drogues à ce même micro.
Justement, mais quand je parle de dépénalisation, chère Apolline, je parle d'adultes responsables, mais à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. Le cerveau n'a pas encore la maturité pour comprendre qu'un fil TikTok n'est pas neutre. Les réseaux sociaux dépensent des sommes considérables pour rendre les jeunes complètement dépendants. Ce n'est pas de la liberté, c'est une captation. Et face à un mécanisme industriel de dépendance, un enfant n'a aucune chance.
C'est un danger sanitaire ?
Comme une crise de santé mentale, oui, les chiffres sont terrifiants. Montée des troubles anxieux, des suicides, chute de l'estime en soi, hypersexualisation, harcèlement permanent. Et ce n'est pas le contenu en soi qui est problématique, c'est la mécanique même de ces plateformes. Elles amplifient tout ce qui fragilise, parce que c'est ce qui retient le plus longtemps. On ne laisse pas un enfant traverser l'autoroute, mais on laisse un adolescent naviguer dans un espace numérique 1000 fois plus violent que la route.
Et tout ça, d'après vous, ça ne suffit pas à expliquer le problème ?
Non, parce qu'il y a un autre angle dont très peu de personnes ne parlent en vérité, c'est la souveraineté. Quand TikTok, la plateforme la plus utilisée par nos jeunes et contrôlée par un régime adverse et totalitaire, ce n'est plus un débat éducatif, c'est un enjeu stratégique. On ne peut pas être sérieux sur la puissance européenne si on ferme les yeux là-dessus. Tous les soldats de l'armée américaine, chère Apolline, ont l'interdiction d'avoir TikTok sur leur téléphone. Ça devrait nous dire quelque chose, soyons clairs. La Chine est une menace existentielle pour la liberté du monde. Elle contrôle aujourd'hui un algorithme qui façonne l'esprit de nos jeunes. Est-ce vraiment normal ?
Donc pour vous, l'interdiction, c'est pas seulement une mesure éducative.
Exactement, c'est un acte de protection, un acte de souveraineté, pas pour contrôler les jeunes, mais pour éviter que d'autres puissances les contrôlent. L'interdiction est une digue, en attendant qu'ils aient la maturité nécessaire pour entrer dans un monde numérique sans que celui-ci les avale.
L'interdire, ici, ce serait protéger la liberté future.
Oui, on interdit aux jeunes l'alcool, le jeu, la conduite. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'avant un certain âge, la liberté est incomplète et donc elle est vulnérable. Si on ne met pas de cadre, ce n'est pas l'État qui va contrôler les jeunes, c'est les algorithmes.
Merci beaucoup Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC tous les lundis et tous les mercredis. Vous réclamez donc l'interdiction purement et simplement de tous les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Demain à votre place, la voix de gauche, Cécile Duflot. À la une du journal de 8h dans un instant, un PC sécurité, soi-disant sécurité, mais vous allez le voir, en réalité extrêmement vétuste et des agents pas assez formés. En exclusivité, RMC vous dévoile les conclusions de l'enquête administrative après le casse du Louvre. Et puis dans un instant, la météo, douceur toujours, mais avec un temps perturbé. Et puis l'économie, juste après le journal, Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel, c'est un bonjour. Paradoxe français. Nous produisons trop d'électricité.
Et c'est surtout que nous n'en consommons pas assez. Voilà, il faut consommer plus d'électricité.
Voilà ce que nous dit donc Emmanuel Le Chypre dans un instant. Puis n'oubliez pas, on vous offre toujours des cadeaux avec le calendrier de l'Avent. Vous pouvez encore vous inscrire en envoyant Noël au 7-32-16. Il y a des PS5 à gagner aujourd'hui. Il est 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h. Très très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il prend l'eau, le plancher menace de s'effondrer et on a la confirmation ce matin que le musée du Louvre n'est pas suffisamment surveillé. On vous révèle en exclusivité sur RMC les conclusions de l'enquête administrative lancée après le cambriolage du 19 octobre. La France est en danger. C'est Nicolas Sarkozy qui dit ça ce matin dans une interview le jour de la sortie en librairie de son journal d'un prisonnier. Et grande opération anti-drogue. Vous verrez cette nuit à Marseille, 1500 policiers déployés en même temps contre les trafiquants qui avaient déjà imprimé des affiches de Noël.
C'est le plus grand musée du monde et pourtant le Louvre est littéralement une passoire.
C'est ce qu'on apprend donc dans l'enquête administrative menée après le vol des Joyaux de la Couronne le 19 octobre dernier. Une audition au Sénat est prévue ce matin. Ce sont les rapporteurs de ce rapport qui seront auditionnés. Alfred Orange pour RMC. Vous nous révélez les conclusions donc de ce rapport accablant sur la sécurité du musée.
À commencer par le PC sécurité du musée jugé trop vétuste qui manque notamment d'écran pour visionner simultanément toutes les images des lieux sensibles du musée. L'enquête démontre qu'une caméra extérieure a bien filmé la nacelle qui se mettait en place pour atteindre la fenêtre du musée, mais que les images n'ont pas été vues tout de suite. Ce n'est que 4 minutes plus tard qu'elles sont apparues sur les télévisions du PC sécurité, faisant perdre un temps précieux aux agents. Des agents pointent l'enquête qui ne sont en outre pas formés pour faire face au vol avec violence. À cela s'ajoute un manque de pilotage global pour la sécurité du Louvre. Alors pour tenter d'y remédier, les auteurs du rapport préconisent de piocher dans les recettes du musée en reversant 5% des recettes de la billetterie au financement de la sécurité.
Et donc les rapporteurs auditionnés au Sénat ce matin. Le Sénat, tiens, c'est la prochaine étape pour le budget de la sécurité sociale. Une lecture express prévue vendredi. Maintenant qu'il a été voté à l'Assemblée, comme prévu, c'était très serré. Ça s'est joué à 13 voix près. Budget qui prévoit la suspension de la réforme des retraites pour les deux prochaines années à partir donc du 1er janvier. Désormais, les ministres de Bercy, Roland Lescure et Méline Montchalin appellent à trouver les mêmes compromis pour le budget général. C'est une grande opération, je vous le disais, contre le trafic de drogue que la police a menée jusqu'à cette nuit à Marseille. Emmanuel Macron doit d'ailleurs s'y rendre la semaine prochaine. 1500 policiers étaient déployés pour des contrôles simultanés dans les quartiers nord de la ville, Romain Hougue.
Oui, une opération dont le but est de cibler en même temps 15 points de deal, la plupart dans le 13e arrondissement de Marseille, dont la cité des Oliviers a haut lieu phocéen du trafic de drogue. Une sorte d'opération place nette XXL, comme les appelait le précédent ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais en version améliorée, a déclaré le nouveau préfet de Marseille, Jacques Witkowski. Opération qui a nécessité la venue de 1300 policiers supplémentaires de toute la France en soutien des 250 à 350 policiers présents quotidiennement dans ces quartiers. Sur place, les accès à la cité sont contrôlés, des chiens détecteurs reniflent les poubelles, les deux roues. Objectif, interpeller des dealers, confisquer la drogue, mais pas que.
Je ne résiste pas à la petite saisie que nous avons fait.
Le préfet tend une affiche aux couleurs de Noël récupérée dans un hall d'immeuble.
Ce qui est distribué dans le quartier pour les fêtes de Noël.
Qu'est-ce qui est marqué ?
Du 25 au 31 décembre, donc chips, boissons, bonbons, etc. Pochon de bœuf ou chips cadeaux. Venez comme vous êtes. Merci de votre passage. À la prochaine. C'est la magie de Noël.
L'objectif, c'est aussi de contrôler les commerces qui peuvent servir à l'économie du trafic. Deux ont d'ailleurs fait l'objet d'une demande de fermeture sur 14 contrôles. En début de soirée hier, le bilan faisait état de 79 interpellations.
On en parlait hier matin à 7h06, la nourrice algérienne sous OQTF accusée d'avoir voulu empoisonner sur fond d'antisémitisme une famille juive dont elle gardait les enfants à Levallois-Perret. 3 ans de prison ont été requis, décision attendue en fin de semaine prochaine. L'antisémitisme a pénétré des lieux qui étaient jusque-là préservés, comme l'école et la sphère privée. Voilà ce qu'a dit le président du CRIF qui était entendu comme témoin au cours de ce procès. Le 320-535, c'est le chiffre à la une ce matin. C'est le numéro d'écrou de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé, dont le livre Le journal d'un prisonnier, écrit donc durant ces 3 semaines d'incarcération, sort aujourd'hui en librairie. L'ancien président entame même pour l'occasion une tournée de dédicaces. Ça va commencer à Paris, dans le 16e arrondissement aujourd'hui. Et alors, il donne à cette occasion une interview qui risque de faire parler ce matin. C'est dans l'hebdomadaire Le Point. Sébastien Krebs, chef du service politique RMC, en direct ce matin. Nicolas Sarkozy dit que la France est en danger.
Oui, la situation est grave, juge l'ancien président. Les conditions d'une explosion ont rarement été à ce point réunies, dit-il dans ce très long entretien accordé à Franz-Olivier Gisbert. Nous sommes à la veille d'un changement de régime, alerte Nicolas Sarkozy, qui décrit une France en danger. On piétine son identité, dit-il, et ses racines judéo-chrétiennes. Nicolas Sarkozy qui raconte dans son livre avoir beaucoup prié en prison, s'est rendu à Lourdes après sa libération, et dans cet entretien, il juge, je cite, que nous ne défendons plus rien, que la laïcité n'est pas une réponse suffisante à un islam conquérant. Les évêques rasent trop souvent les murs, estime-t-il. Quand il y a une statue de la Vierge à l'entrée d'un village, beaucoup de commentateurs sont choqués. Quand il y a un marché halal à la Défense, les mêmes applaudissent, dit-il.
Et alors, Nicolas Sarkozy reparle dans cette interview du Rassemblement National.
Oui, et lorsqu'on lui demande si le RN est dans l'arc républicain, il juge la question étrange. Si l'on considère que le Parti communiste et LFI sont républicains, je ne vois pas pourquoi le RN ne le serait pas lui aussi, explique Nicolas Sarkozy, qui dans son livre plaide pour l'union des droites. Il raconte même avoir promis à Marine Le Pen de ne plus s'associer au Front républicain. L'ancien président, qui avait tourné le dos à son propre parti pour soutenir Emmanuel Macron, normalise aujourd'hui le RN au point de comparer Jordan Bardella à Jacques Chirac. Quand j'ai rencontré Bardella, raconte Nicolas Sarkozy, il m'a fait penser au RPR au temps de Jacques Chirac. Son discours n'est pas très différent d'une autre à l'époque, une sortie qui risque de faire beaucoup réagir au sein de la droite.
Sébastien Krebs, chef du service politique d'RMC, est noté qu'à 8h30, mon invité, ce sera précisément le député RN Sébastien Chenu, dont on apprend, à travers les lignes du livre de Nicolas Sarkozy, que Sébastien Chenu lui a adressé de nombreuses lettres, des longues lettres à Nicolas Sarkozy lorsqu'il était en prison. J'interroge bien sûr Sébastien Chenu dans un instant là-dessus.
Autre ancien président en prison au Brésil, Jair Bolsonaro, qui purge depuis le mois dernier une peine de 27 ans de prison pour sa tentative de coup d'État après sa défaite à la présidentielle. Et bien cette nuit, les députés brésiliens ont voté une loi pour alléger sa peine à seulement un peu plus de 2 années. Une première mondiale, et on en parle depuis très tôt ce matin sur RMC, c'est l'Australie qui interdit les réseaux sociaux, toutes les plateformes, au moins de 16 ans pour les protéger. Le ministre, premier ministre australien se félicite, dit-il, de reprendre le contrôle. On est à 6 mois de la Coupe du Monde de foot. Et alors ça aussi, c'est une grande première. On se dirige bel et bien vers un show à l'américaine, puisque les mi-temps seront maintenant coupés en deux par des pauses publicités. Alors officiellement, ce sont des pauses fraîcheurs qui seront systématisées, mais ça va permettre aux diffuseurs de passer de la pub, Nicolas Pelletier.
Oui, une révolution pour le monde du football. Pendant tous les matchs du Mondial 2026, à la 22e minute et à la 67e minute de jeu, les joueurs vont réaliser une pause fraîcheur. Pendant cet arrêt de jeu, les téléspectateurs verront des publicités apparaître à l'antenne, une première pour du football. L'instauration de ces pauses avec un timing très précis est une très bonne nouvelle pour les diffuseurs. Ils pourront vendre des publicités à des montants très importants. La FIFA répond à une demande des diffuseurs américains de la compétition qui pratiquent déjà ce système dans d'autres sports. Autre nouveauté pour ce Mondial 2026, la FIFA a décidé de rallonger la pause de 15 minutes à la mi-temps de la finale de la prochaine Coupe du Monde, le 19 juillet. Cette décision doit permettre d'organiser un grand show télé avec des artistes à l'image du Super Bowl.
En attendant, suite de la sixième journée de Ligue des Champions pour Paris ce soir 21h sur RMC, Paris qui jouera à Bilbao contre l'Athletic au lendemain de la victoire de Marseille 3-2 chez l'Union Saint-Gilloise et de Monaco 1-0 contre Galatasaray. Je vous signale aussi que ce soir il y aura le quart de finale du Mondial féminin de handball, la France qui joue contre le Danemark.
C'était le journal de Quentin Vinet. Tout de suite, place à l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Lechy, bonjour Emmanuel. La bonjour France doit accélérer sa transition vers l'électrification pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Et on apprend que la France produit trop d'électricité.
Et oui, exactement. Alors, accélérer la transition vers l'électrification, c'est ce que réclame RTE, le gestionnaire de notre réseau électrique, dans son bilan prévisionnel 2025. Une politique qui n'aurait que des avantages, puisque ça réduirait notre dépendance au pétrole et au gaz importés. Ça améliorerait notre balance commerciale, évidemment, puisqu'il faut rappeler que les achats de gaz et de pétrole, c'est quand même 64 milliards de déficit. C'est notre plus gros déficit extérieur. Et puis, ça permettrait de décarboner plus rapidement le pays. L'objectif affiché par RTE, c'est que les énergies fossiles, qui représentent aujourd'hui 60% de notre consommation totale d'énergie, donc totale, hein, pas seulement d'électricité, et ben il faudrait tomber à au moins 35% d'ici 2035, en augmentant l'usage de l'électricité bas carbone, nucléaire ou renouvelable, dans le transport, dans l'industrie, dans les bâtiments.
Sauf qu'aujourd'hui, la décarbonation de notre économie, elle est très lente, et du coup, on produit trop d'électricité.
Ben oui, parce que l'électrification de nos modes de vie, elle prend du retard, hein. Regardez, le développement de la voiture électrique, par exemple, ça va beaucoup moins vite que ce qu'on anticipait, si bien que la consommation d'électricité stagne et que la France va être en situation de surcapacité de production, notamment dans le nucléaire, au moins jusqu'en 2028. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun risque de manquer de courant cet hiver. Hein,
alors qu'on se souvient quand même des risques de blackout.
Il y a 3 ans. Absolument. L'électricité va rester bon marché, puisqu'il y en a beaucoup, ça va de soi. Et puis EDF va gagner beaucoup d'argent en exportant les surplus. La mauvaise nouvelle, c'est que ça interroge sur la nécessité de poursuivre les investissements dans le renouvelable, au risque, si on poursuit au rythme actuel, de fragiliser un réseau qui doit toujours équilibrer offre et demande et de se retrouver avec le même type de problème que ce qu'a connu l'Espagne quand il y a eu quasiment trop d'énergie renouvelable qui est arrivée sur le réseau et que ça a provoqué une grande panne.
Quelle serait la trajectoire la plus raisonnable si on voulait faire l'idéal du mix énergétique, comme on dit français?
Eh ben, ce que dit RTE, c'est ça, c'est qu'il faut consommer plus d'électricité et investir plus dans le renouvelable. Oui, plus d'électricité, mais d'électricité propre. Pour RTE, l'accélération de la consommation électrique, c'est 3 fois plus efficace économiquement que de réduire la cadence d'installation des énergies renouvelables terrestres. RTE nous dit, attendez, moi j'ai sous le coude des projets qui vont être énormément gloutons en électricité, des projets d'usines pour l'hydrogène, pour l'automobile, des centres de données qui veulent des connexions très importantes, 30 gigawatts, il faudra, c'est l'équivalent de plusieurs centrales nucléaires. Bon, tout ça devra être réglé dans notre fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie qui a déjà 2 ans de retard et qui va se pencher.
En termes de programmation,
ouais.
En général, en ce moment, ils sont pas excellents quand même, nos politiques, faut le dire. Merci Emmanuel, il est 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, dont on apprend qu'il a écrit des lettres à Nicolas Sarkozy lorsqu'il était en prison. Puis juste après, 8h50, comme tous les matins, ce sera Nicolas Canteloup sur RMC. A tout de suite, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Macron. C'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Demange. Salut Arnaud.
Bonjour à tous, bonjour et joyeux futur Noël les amis, puisque c'est bientôt Noël. Et chacun commence à préparer son réveillon. Chez Mathieu Béliard, on sélectionne le menu. Vous savez que Mathieu est amateur de grande cuisine. Cette année, il a décidé de se lancer dans une émulsion de chorizo en 7 expressions avec voile de paprika fumée. Donc hier, il faisait ses courses sur la dalle d'Argenteuil. Il était là, psst, t'as du protoxyde d'azote? C'est pour mon siphon à mousse.
Tu veux pas
des petites cuillères, un briquet et des seringues aussi? Ah bah si, ça va me permettre de faire mes verrines de crumble au parmesan fumé avec son chou d'aneth cryo concentré et sa poussière végétale de fenouil sauvage.
Excellent.
Vas-y, c'est un malade ce mec. Et en plat principal, il y aura des pâtes, hein, parce qu'à un moment, faire des plats élaborés, ça commence à faire chier pour des mômes qui apprécient pas la bonne cuisine. Hein, tu leur amènes une endive en braisage inversé, laquée au miel de châtaignier en polycaramélisation et crème lactique de chèvre, et ils te réclament des knackis, ces petits bâtards. Il y a pas de venir ouf. Courage, Mathieu, pour ce menu. Ça a l'air bon, hein, ceci. Allez, voyons ce que nous réserve aujourd'hui le calendrier de l'Avent du LOL. Ho, 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 qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un livre de Nicolas Sarkozy. Oh, il fallait pas. Non, vraiment, il fallait pas. C'est la sortie de Journal d'un prisonnier. 20 jours de détention, 20 euros. Wallen Sansal, il va nous sortir un bouquin à 300 balles. 300 jours de détention. Bam, un dictionnaire. Alors, François Ruffin, dans une vidéo, reproche à Nicolas Sarkozy d'utiliser 1439 fois le pronom « je ». Oui, d'accord, mais en même temps, quand t'es tout seul en cellule, il n'y a pas beaucoup de personnages dans ton bouquin. Il n'allait pas inventer René l'araignée, à qui il se confie, quoi. Il est resté 20 jours. Il n'y a pas de quoi devenir dingue au point de parler aux araignées. Je suis parisien, hein. Même moi, je peux passer 20 jours sans dire bonjour à quelqu'un. Je suis sûr, c'est très possible. Alors, le quotidien en prison de Nicolas Sarkozy était consacré aux prières et à manger des yaourts. Voilà, prière et lactose, c'est pas une incarcération, Sarkozy, c'est un chaussé aux moines. Et il s'en prend à Emmanuel Macron. L'ancien président reproche au chef de l'État d'avoir détourné le regard lors de ses ennuis judiciaires. De toute façon, Macron, il détourne le regard sur plein de trucs. Là, il a détourné le regard sur la dépense publique pendant 9 ans. Macron, il détourne tellement le regard, il va finir par loucher. C'est plus le Mozart de la finance, c'est le Dalida des comptes publics. C'est hop là, un qui regarde ailleurs.
Alors justement, le budget a donc été voté hier.
Oui, ça a été des longues tractations. Hein. Vous en parliez hier avec Amélie de Montchalin, votre invitée, la ministre des comptes publics. Ça doit être difficile comme métier, ministre des comptes publics. Encore que, non. Enfin, je veux dire, en ce moment, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps dans ta journée de compter les sous de la France. T'es là, oh, il n'y en a plus. C'est fini, la fin de journée, 9h03. Beaucoup de députés se sont abstenus de voter. C'est une bonne combine de s'abstenir comme ça. Vous imaginez, dans la vraie vie, ce serait pratique. Votre conjoint qui revient du coiffeur, t'en penses quoi? J'ai changé de tête, t'aimes bien? Mon groupe a décidé de s'abstenir. On ne prend pas de risque, hein, c'est pratique.
De chez le coiffeur.
De chez le coiffeur.
Le RN souhaite rouvrir des maisons closes fermées donc depuis 1946. Elles seraient tenues par les prostituées elles-mêmes en mode coopératif.
Oui, c'est une initiative de Jean-Philippe Tanguy. Alors le programme du RN, c'est donc fermer les frontières qui sont ouvertes et ouvrir les maisons closes qui sont fermées.
Voilà.
Ceci dit, c'est bon pour le bilan carbone. Comme ça, les hommes du Sud-Ouest n'auront plus besoin d'aller à la frontière espagnole ou, comme ils disent à leurs femmes, aller voir le rugby avec les copains. Alors, des maisons closes en coopérative, pourquoi pas? Juste, s'il vous plaît, pas gérées par l'État. Hein, sinon, voilà, on va arriver voilà. Là-bas. Bonjour, bienvenue chez France Plaisir. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Cindy, Monsieur Dumont. Alors, Monsieur Dumont. Alors oui, je le vois dans le fichier, mais le rendez-vous n'a pas été validé par ma hiérarchie. En fait, des fois, l'ordinateur, il veut pas. Oui, d'accord,
oh
mais. Oui, mais moi je veux. Bon, bougez pas. Ginette! Pardon. Ah. Cindy! Pardon, Cindy, t'as un client, Monsieur Dumont.
J'arrive. Bonjour, Monsieur Dumont. France Plaisir est heureuse de vous accueillir à un moment de détente et de volupté avec France Plaisir. Alors, je vais prendre votre carte vitale, la photocopie de votre pièce d'identité, Monsieur Béliard.
Non, Dumont, c'est Monsieur Dumont.
C'est marqué Béliard.
Oh merde.
À France Plaisir, vous avez un large choix de plaisirs disponibles pour un moment coquin et sans tabou. Rapport dans un lit, dans une forêt, en infirmière. Oh oui, vous êtes bien chez France Plaisir. Oh oui, c'est bon. Oh, oh. Fais-moi grimper au rideau, mon salaud. Chez France Plaisir.
Oui, bon, alors je vais choisir l'infirmière.
Oui, alors, il y a les différents formulaires CERFA avant. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y en a que 8. Ça prendra près de 2 heures. Alors, c'est un rapport sexuel. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans le département. Est-ce votre département de naissance?
Non mais là j'ai plus envie en fait. Le Viagra cessé de faire effet depuis 2 heures.
On a toujours envie chez France Plaisir.
Allez, bon courage monsieur Dumont.
Allez, on va voir le merci rugby. Arnaud Demange. Tous les jours 7h20, 8h20 sur RMC. À tout moment en podcast, mais aussi sur scène, puisque vous revenez avec un nouveau spectacle.
Le grand retour
Arnaud, ouais. Ce sera partout en France, à Montpellier, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse et d'ailleurs partout ailleurs. Un spectacle 100% tout neuf avec RMC, évidemment. Félicitations et on a hâte. Il est 8h20.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Et c'est l'heure pour Arnaud. Bonjour Arnaud.
Bonjour,
vous êtes chef de chantier à Poitiers. C'est vous le gagnant du jour.
Vous êtes prêt ou pas? Bah, écoute, je suis vraiment heureux, Apolline. C'est vraiment super. C'est vraiment Noël avant.
Attendez. Vous allez pouvoir me dire tout ça dans un instant parce qu'on va ouvrir la case ensemble. On est le 10, c'est ça?
Chaque fois j'ai peur de me tromper.
C'est ça. Donc Arnaud, hop, on se concentre. J'ouvre le petit papier. Waouh. Vous avez gagné, Arnaud, grâce à Micromagazing, la PlayStation 5
wow,
Slim.
C'est génial.
D'une valeur de 450 euros. Et Micromagazing vous offre, et ça j'adore, cette petite cerise sur le gâteau, la Miam Box. La Miam Box spéciale Noël, c'est une boîte mystère avec une sélection de friandises originales pour Noël. Oh, mais dis donc, Arnaud, vous allez pouvoir manger des bonbons tout en jouant à la PS5. Voilà. C'est pas beau ça?
Exactement. Non, moi, vraiment, c'est génial. Voilà. Oh, voilà. Non, super. Merci à Pauline, merci à tout le monde.
Merci
à
de votre
équipe.
Merci de votre fidélité à RMC. On est très très heureux de vous couvrir de cadeaux. Bravo Arnaud, comme Arnaud, vous envoyez Noël au 7-32-16 pour pouvoir jouer et gagner. Il est 8h21, dans un instant c'est le face-à-face. Mon invité, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale, député RN, Sébastien Chenu. Je l'interroge bien sûr sur le budget qui a finalement été voté hier. Mais plus surprenant, sachez que Nicolas Sarkozy lui consacre 2 pages dans son livre sur son journal d'un prisonnier, parce que Sébastien Chenu lui a écrit des lettres, de longues lettres, alors qu'il était en prison. Je vous raconte tout et je l'interroge dans un instant. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour madame.
Vous êtes député RN du Nord, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. On va évidemment revenir sur ce budget qui a fini par être voté hier. Mais j'avoue être extrêmement surprise ce matin de découvrir la relation épistolaire que vous avez nouée avec Nicolas Sarkozy. Il vous consacre, Nicolas Sarkozy, 2 pages dans son livre qui paraît aujourd'hui. Il dit de vous que vous lui avez, je cite, adressé des courriers de soutien, que vous vous êtes même engagé à lui adresser un courrier de soutien chaque semaine, aussi longtemps que durerait mon incarcération, dit Nicolas Sarkozy. Il parle de missives assez longues, bien loin des messages s'inspirant de textos habituels. Le contenu était sensible, personnel, humain. Il parle de vous comme d'une personnalité, je cite, sensible, capable de s'élever au-dessus des querelles politiciennes pour aller à l'essentiel des rapports humains. Je n'oublierai pas l'étonnement qui fut le mien et le bienfait que cela me procura. Pourquoi vous lui avez écrit ?
D'abord parce que Nicolas Sarkozy traversait une situation difficile et injuste. J'ai horreur de l'injustice. J'ai considéré que la mesure d'exécution provisoire qui lui était infligée alors qu'il était présumé innocent et qu'il devait continuer à batailler pour faire valoir cette innocence, eh bien cette mesure d'exécution provisoire qui l'enfermait, qui l'incarcérait, était injuste et humiliante. J'ai considéré que, tout en ayant quitté la famille des Républicains il y a bien longtemps, c'était encore l'UMP lorsque je suis parti, et en ayant été très heureux de rejoindre Marine Le Pen, je n'ai pas oublié, parce que je pense que dans la vie, il ne faut pas se renier. Je n'ai pas oublié mes années de campagne auprès de Nicolas Sarkozy, et j'ai considéré que lorsque un homme a un genou à terre, c'était le cas de Nicolas Sarkozy, il est normal de lui adresser un message de soutien. C'est comme ça que je vois les choses dans la vie.
Que vous l'avez invité à ne pas tourner le dos à la France et à la politique, c'est comme ça qu'il le dit. Nous avons besoin de votre expérience, lui avez-vous dit?
Oui, c'est vrai. Je crois que les déclarations de Nicolas Sarkozy, qui sont faites à la lumière de l'expérience qui est la sienne, ce qu'il dit aujourd'hui du Rassemblement National, de Marine Le Pen, de l'état du pays, de ce qu'a fait Emmanuel Macron de notre pays, montre qu'il a le recul, l'expérience pour pouvoir juger. J'ai lu un certain nombre de pages, ce qu'on appelle les bonnes pages. Je vais évidemment l'acheter. Je crois qu'il sort aujourd'hui. Je l'achèterai.
Il y a beaucoup de choses aussi sur le RN. Et au-delà de ce qu'il dit de vous, je voudrais vous entendre sur ce qu'il dit au fond d'une union de fait du côté au minimum des élections.
électeurs. Et vous en êtes l'incarnation, vous qui, vous le rappeliez, êtes passé des Républicains au RN aujourd'hui, et semble-t-il, vous ne reniez pas aussi cette partie-là. Il dit, beaucoup d'actuels électeurs de Marine Le Pen ou Jordan Bardella étaient à mes côtés lorsque j'étais dans la politique active. Jamais, lorsque j'étais président de l'UMP, ni le père ni la fille n'ont été présents au second tour de l'élection présidentielle. Insulter les dirigeants du Rassemblement National, c'est insulter leurs électeurs, donc les nôtres, au moins potentiellement. Il estime qu'il y a une sorte de porosité au minimum dans vos électorats.
Oui, enfin le Rassemblement National, je crois, n'est pas enfermable dans ce qu'on peut appeler la droite uniquement. Le Rassemblement National touche et rassemble bien plus largement que des électeurs de droite ou que des électeurs déçus des LR. Si nous avons tant de députés, si Marine Le Pen fait des scores tellement importants, si Jordan Bardella est en tête des élections, c'est parce que nous rassemblons des électeurs qui viennent d'univers politiques très différents. Mais je crois que Nicolas Sarkozy dit une chose qui est intéressante. Il dit que le Rassemblement National est le centre de l'opposition dans le pays, que ça se fait autour de lui.
Enfin,
que ça...
il vous RPRise, si je puis me permettre l'expression. Il dit que lorsqu'il a pour la première fois rencontré Jordan Bardella, il m'a fait penser, dit-il, au RPR au temps de Jacques Chirac.
Oui, mais c'est pas désobligeant. D'ailleurs, c'était un mouvement en conquête. C'était un mouvement, le RPR, qui rassemblait à la fois les ouvriers, les patrons. C'était le gaullisme. C'était, je crois, comme le définissait, je crois que c'est Pompidou qui disait, c'est le métro à 5 heures du soir. Eh bien, je pense que le Rassemblement National, c'est un peu ça.
Est-ce qu'il est en train de vous adouber ? Et je ne sais pas dans quelle mesure, d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas. Mais lorsqu'il dit les exclure du champ républicain serait une erreur et un contresens, tout autre comportement serait absolument incompréhensible pour des Français qui supportent de plus en plus difficilement les outrances de la France insoumise et le cordon sanitaire factice, et ça il l'écrit entre guillemets, Nicolas Sarkozy, autour d'un Rassemblement National qui ne constitue pas un danger pour la République.
Je crois qu'il a tout dit, parce qu'il entend, il connaît le pays, Nicolas Sarkozy. Il voit ce que disent les électeurs. Les électeurs qui votent pour le Rassemblement National sont de parfaits républicains. Les dirigeants du Rassemblement National sont de parfaits républicains. Lorsqu'il rencontre Jordan Bardella, il voit, il comprend, il sait, et il comprend la mue.
Enfin, il dit qu'il y a deux RN. Hein. Il dit qu'il y a le RN de Jordan Bardella et le RN, dit-il, canal historique, notamment autour de la figure de Marine Le Pen, dont on sent qu'ils n'ont pas du tout ses égards.
Non mais Nicolas Sarkozy ne promeut pas le Rassemblement National. Il reste un adversaire politique, il reste quelqu'un qui défend une autre ligne politique, mais en revanche, il est lucide. Il est lucide sur la mue qu'a entamé Marine Le Pen, ce qu'elle a fait du Front National en le transformant en Rassemblement National. Il est lucide sur ce que nous sommes, il est lucide sur la force que nous représentons.
Sébastien Chenu, c'est quoi la prochaine étape ? C'est en effet, alors vous avez longtemps dit que vous étiez contre l'union des droites, l'êtes-vous toujours ?
D'ailleurs, Nicolas Sarkozy parle pas d'union des droites, il dit qu'il faut dépasser les clivages en empêchant le barrage républicain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous on est pour le dépassement des clivages. Marine Le Pen l'a théorisé il y a bien longtemps, et le barrage républicain n'est que simplement un retour, n'est que simplement une facilité que se donne le système pour conserver ses places. Mais il faut dépasser, évidemment, les droites.
Je vous interroge dans un instant sur le budget, mais encore un mot sur, là pour le coup pas l'URN, mais sur la situation de la France. Ça c'est dans les colonnes du journal Le Point, que Nicolas Sarkozy dit la situation est grave, les conditions d'une explosion ont rarement été ainsi à ce point réunies. Il estime que la France est en danger.
Oui, la France est en danger. Elle peut basculer sur plusieurs points. Elle peut basculer parce qu'elle serait confrontée à une crise obligataire à un moment ou à un autre. On ne pourrait plus emprunter au taux auquel nous empruntons aujourd'hui. Et alors, ça veut dire que les pistes de sortie seraient très différentes et en tous les cas seraient très difficiles pour les Français. C'est le résultat des 8 ans d'Emmanuel Macron. La France peut basculer sur des questions de sécurité et d'ordre public. C'est le résultat de la politique par Emmanuel Macron, mais aussi tous ceux qui le soutiennent aujourd'hui. Les LR, les socialistes, on en parlera probablement avec cette histoire de budget, mais aujourd'hui l'état du pays a été extrêmement abîmé par les 8 ans d'Emmanuel Macron, qui aura été le pire président de la République que nous ayons connu.
Sébastien Chenu, ce budget adopté pour vous, c'est pire que s'il n'y avait pas eu de budget ?
Ah ben ce budget est le pire budget, le pire PLFSS, en tous les cas, hors période de crise économique aiguë, c'est le pire, 25 milliards d'euros supplémentaires, effectivement, de déficit.
Alors ça, effectivement, c'est le chiffre que donne ce matin le ministre de l'économie, Roland Lescure. Un chiffre qui n'est pas le même que celui qu'Amélie de Montchalin, à ce même micro hier matin, affirmait. Elle disait « ce sera en dessous de 20 milliards ». Et ce matin, en effet, Roland Lescure parle d'un déficit de 24,5 milliards d'euros pour la Sécu en 2026. En prenant en compte le refinancement de l'État de 4,5 milliards, c'est bien loin de l'objectif initial de 17 milliards d'euros.
Oui, mais ces gens-là, en fait, ne savent pas faire d'économie, ne savent qu'aller chercher de l'argent dans les poches des Français.
Oui, mais ça aurait été pire.
Non, ça n'aurait pas été pire.
S'il n'y avait pas de budget, on aurait été à 30 milliards.
Non. Ça, c'est les inventions de Madame de Montchalin. D'ailleurs, vous voyez, elle est même pas d'accord avec son ministre des Finances. Ils sont même pas d'accord entre eux. Donc ça, c'est les délires de la Macronie qui sont quand même ce qu'il y a de pire en matière d'économie et de finances publiques. Hein. On les voit à l'œuvre depuis 8 ans. On nous les avait présentés comme des Mozart, des cadors de la finance, etc. Ce sont des nullités absolues. Ils mettent le pays dans la...
Ils sont nuls.
Ah ben, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Des gens qui nous mettent le déficit de la sécurité sociale le plus important que nous ayons connu depuis des années. C'est leur résultat, qui ne font aucune économie, qui ne trouvent aucune piste, qui n'ont aucune idée pour le faire et qui, de toute façon, sont guidés par une seule chose. Durer. Durer. Ils ne veulent pas retourner devant les Français. Ils ont la trouille des Français. C'est Emmanuel Macron d'ailleurs le premier qui doit avoir la trouille des Français. Et donc pour cela, ils sont prêts à sacrifier l'intérêt de notre nation, l'intérêt de notre pays pour durer.
Mais il y a dans ce budget des points que vous-même, vous avez votés. La suspension de la réforme des retraites, vous le souhaitiez, vous l'avez voté, ça y est, ça passe.
D'abord, c'est pas une suspension, Madame de Malherbe. C'est un décalage. Vous le savez bien, la suspension, elle viendra, je pense, au moment des élections présidentielles, si Marine Le Pen est élue. Donc il y a bien entendu dans la liste des dispositions qui existent dans ce PLFSS, dans ce budget de la sécurité sociale, des choses qu'on veut et qu'on vote, mais à la fin vous avez un ensemble. Il se trouve que l'ensemble c'est que 25 milliards de déficit. Alors ça a été évidemment préparé par Olivier Faure, tout ça, parce qu'à la base c'est quand même le deal avec le Parti Socialiste, ça a été servi par Sébastien Lecornu, et ça a été avalé par LR. Le grand parti qui nous disait, Laurent Wauquiez nous disait, pas de hausse d'impôts, nous on est des gens sérieux, on votera jamais de hausse d'impôts. Ils viennent de voter des hausses d'impôts massives, puisqu'il y a 2 milliards et demi à peu près de hausse d'impôts, la CSG, les mutuelles. Ça, c'est les Français qui vont les payer. Donc les LR, complices du PS, complices de la Macronie, c'est le système qu'on retrouve qui veut durer.
Il y a ensuite la discussion sur le budget global de la France qui va s'engager, et le Premier ministre laisse déjà entendre qu'au fond, il pourrait repousser la date butoir, continuer des discussions probablement en janvier. Est-ce que ce budget de la France, ce sera la même bataille? Est-ce que vous pourriez, vous, aller vers une motion de censure? Dans quel état d'esprit vous êtes?
Non mais nous, on ne s'empêche rien. Mais ce sera la même magouille. On les a vus à l'œuvre. On a vu, sous l'égide de Sébastien Lecornu, le PS et LR trahir leurs électeurs, trahir leurs engagements, parce que je vous rappelle que ces gens-là ont été élus, ils se trouvent comme nous, hein, sur des programmes. Nous, on n'a pas le même programme qu'eux, mais ils ont pris des engagements devant leurs électeurs. Ils les trahissent totalement. LR et son programme anti-impôt viennent d'en voter 2 milliards et demi. Je vous le redis, CSG et mutuelle, c'est les Français qui payent à la fin. Donc nous, on ne s'empêche rien. S'il faut déposer une motion de censure, on le fera. Ce qu'on voit bien, c'est que Sébastien Lecornu, c'est l'as de la godille, c'est l'as du zigzag, c'est les pires pratiques de la vie politique, hein, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, les Français payent, à la fin, rien n'est résolu, à la fin, les finances publiques sont encore plus abîmées, mais à la fin, ils durent.
Sébastien Chenu, parmi les déclarations donc du ministre de l'économie ce matin, qui parle donc d'un déficit en effet de 24,5 milliards d'euros finalement pour ce budget de la Sécu. L'an dernier, le déficit était déjà de 23 milliards, donc on augmente finalement le déficit. Mais il précise aussi qu'il va falloir trouver 4,5 milliards de plus d'économies dans le budget de l'État pour tenir l'objectif de 5%. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une sorte de vase communicant qu'il va falloir récupérer quelque part. Est-ce que, au moins sur l'objectif, c'est-à-dire passer sous la barre des 5%, vous êtes d'accord ?
Mais la réalité, oui, enfin, on peut être d'accord sur des objectifs, mais on les atteint comment, ces objectifs? Eux, leur seule façon d'atteindre les objectifs qu'ils fixent, c'est d'aller chercher dans la poche des Français. Donc on leur dit, pourquoi vous n'ouvrez pas le dossier tabou de l'immigration? Pourquoi vous continuez à alimenter à ce point l'Union européenne? Pourquoi est-ce que vous continuez, par exemple sur la fraude, à ne pas mettre en place la carte vitale biométrique? Ça fait 3 ans qu'Elisabeth Borne l'avait promise, c'est toujours pas fait. En réalité, ils ne savent pas, ils ne veulent pas ouvrir d'ouvrir un certain nombre de dossiers qui pour eux sont des tabous absolus, qui permettraient tout simplement de ne pas aller ponctionner les Français. Moi, je crois que ce gouvernement, il a une logique qui est celle de la facilité, du manque de courage, de la volonté de durer, et encore une fois, sans rien résoudre. L'état des finances publiques n'aura jamais été aussi épouvantable que depuis ces 8 ans d'Emmanuel Macron.
Sébastien Lecornu dit l'état d'esprit du gouvernement ne changera pas, l'intérêt général d'abord, sans céder ni à la fébrilité ni aux agendas électoraux. Les Français en ont assez du désordre, ils veulent que l'on avance, que l'on décide, que l'on protège, c'est ce que nous continuerons à faire avec calme et détermination. Exactement l'inverse de ce que vous dites.
Mais il se moque de qui? Enfin, voyez l'état des comptes publics, c'est ça ce qu'il appelle l'ordre? Voyez l'état sécuritaire du pays, c'est ça qu'il appelle l'ordre? Mais c'est le désordre partout avec la Macronie. Mais le pire, c'est que les LR soutiennent ça. Les Républicains soutiennent le désordre économique, le désordre financier, le désordre sécuritaire. Je vous rappelle que Retailleau n'a strictement rien fait. Vous avez vu les chiffres de la sécurité qui sont sortis pour l'année qui s'écoule. Ils sont très mauvais. Donc, en fait, c'est le désordre à tous les étages. Et ils sont contents d'eux-mêmes parce qu'en fait, pendant ce temps-là, ils demeurent en place, ils restent et ils ne se confrontent pas aux électeurs. C'est ça qui leur fait le plus peur. C'est de se retrouver face aux Français parce qu'ils seront balayés.
Et vous, le RN, vous n'êtes que spectateur.
Oh ben non, on a été quand même acteur, vous l'avez dit oui, vous-même. Enfin, nous avons obtenu.
Ça s'est passé hier, vous n'avez finalement pas eu les moyens de lutter.
Ah ben, nous ne sommes pas majoritaires dans cette assemblée où de toute façon personne n'est majoritaire. Personne ne peut dire j'ai fait cela tout seul. Leur budget, ils l'ont fait passer avec le PS et les Républicains. Donc évidemment, personne n'étant majoritaire, personne n'obtient un résultat tout seul. Mais nous, on est content de ne pas avoir obtenu ce résultat. Hein. Ce résultat, il est une honte pour le pays. Il est une honte pour les Français. Il est une honte pour les finances publiques. En fait, ces gens-là ne sont pas sérieux. Ces gens-là ne voient pas l'intérêt général du pays et ont peur des Français.
Sébastien Chenu, vous rencontrez, vous, des patrons, des membres du MEDEF?
Moi, je rencontre plutôt des patrons de PME et de TPE, mais j'ai rencontré le président du MEDEF il y a quelques temps. Ça m'arrive, oui, bien sûr.
Parce que ce sont mes confrères du journal L'Opinion qui le racontent. Les rencontres entre patrons et RN se multiplient, écrivent-ils. Les rendez-vous se multiplient d'ici fin janvier. La moitié des patrons du CAC 40 auront rencontré Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Oui, mais c'est très bien. Ça montre que non seulement nous ne faisons pas peur, mais qu'on nous donne de la crédibilité. Nous, on est pour la croissance. On est pour la création de richesses. Nous, on considère que notre pays, et c'est l'inverse d'ailleurs des politiques de gauche qui sont souvent des politiques de décroissance, eh bien, on considère que l'intérêt du pays, c'est de créer de la richesse. Parce que quand on crée de la richesse, on peut mener d'autres politiques. On peut relancer une politique nataliste dans le pays. On peut lancer des politiques de soutien à ceux qui ont le moins. On peut avoir une fiscalité plus juste.
De réticence, de prudence de la part des patrons à vous rencontrer?
Bah, c'est à eux qu'il faut poser la question, mais nous, la porte a toujours été ouverte. Moi, j'avais rencontré en son temps le patron, enfin Michel-Édouard Leclerc, j'avais rencontré Dominique Schellcher, j'avais rencontré le MEDEF, et je rencontre des patrons de PME et TPE parce que
alors,
je pense que c'est eux. Les deux, il y a eu les deux. Je pense que c'est les patrons de PME et TPE qui, aujourd'hui, créent de l'emploi. Donc, c'est eux qu'il faut soutenir principalement, et ça reste notre boussole.
Les maisons closes.
Ouais.
Vous l'aviez vu venir, vous, ça, la proposition de votre collègue, Monsieur Tanguy, qui voudrait rouvrir les maisons closes.
Mais je vais pas vous dire que je l'ai pas vu venir parce qu'en fait, nous avons présidé avec Anaïs Sabatini, députée Rassemblement National de Perpignan, un groupe d'études sur la prostitution pendant les deux années précédentes. Donc, on s'est déjà intéressé à ces sujets-là. Emmanuel Taché, qui est notre représentant, qui est député des Bouches-du-Rhône, mais à la délégation de droits des femmes, il est aussi favorable. Donc, la réflexion, elle existait. Et Marine Le Pen, il était favorable. Que Jean-Philippe Tanguy propose ça sur un modèle très différent de celui qu'on connaît, c'est-à-dire plutôt des coopératives qui seraient gérées par les intéressés pour les protéger des insécurités, pour leur donner aussi des droits sociaux, une retraite, je pense que c'est une façon mature et adulte d'affronter ce problème.
Ça pourrait être dans le programme présidentiel de 2027.
Le programme présidentiel, j'en sais rien. En tous les cas, c'est une action parlementaire, c'est un acte de législateur, un acte de député que je soutiens pour ma part.
Vous avez pensé quoi, vous, des propos de Brigitte Macron, qui, alors qu'elle était dans les coulisses du spectacle d'Harry Habitant, a parlé à propos des militantes féministes qui avaient tenté la veille de faire annuler ce spectacle de Salcon.
Je n'ai pas à commenter un propos privé et je trouve qu'aller chercher, aller piéger, aller prendre un propos privé qui n'est pas donc par définition un propos officiel de Madame Macron pour en faire une polémique me semble être très malsain. Si on met des micros partout, si on écoute les propos privés des journalistes, des politiques, des chefs d'entreprise, etc., on va pas être déçu du voyage, hein, parce que ce que tout le monde se raconte dans la vie n'a rien à voir forcément.
Il y a une forme d'hypocrisie.
Non, il y a pas une forme d'hypocrisie, mais c'est-à-dire que lorsqu'on a un propos officiel, on met par exemple les formes qu'on qu'on ne met pas forcément dans un propos privé. Mais sur le fond, pour parler, pour revenir à l'hypocrisie, Madame Macron, elle met le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire que le comédien Monsieur Habitant, il a bénéficié d'un non-lieu. La justice a décidé qu'il n'était donc pas coupable. Mais on ne peut pas remettre en cause et empêcher quelqu'un qui fait son métier de l'exercer, interrompre
donc
ses spectacles.
Donc il ne faut pas tenter d'interrompre ses spectacles, quoi.
Ben non, puisque de toute façon, il n'est pas coupable. Donc au nom de quoi on vient empêcher quelqu'un, au nom d'une élucubration, au nom d'un fantasme, au nom de... Sincèrement, moi je suis toujours favorable à ce qu'on entende la parole des femmes victimes. Mais quand la justice s'est prononcée, je pense que effectivement il faut laisser cela, sinon il n'y a plus de justice.
Merci Sébastien Chenu d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. Il est 8h46 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup, Sébastien Chenu, le vrai, est resté dans ce studio. Rebonjour Sébastien Chenu.
Rebonjour.
Il était donc mon invité ce matin. Éric Ciotti voulait vous dire un mot, justement.
Oui, bonjour Madame de Malherbe. Et bonjour à mon excellente amie de toujours, déjà depuis, depuis au moins un an, hein, Sébastien Chenu. Oui, nous nous connaissons tellement bien que l'an prochain, je vous donne un scoop, Madame de Malherbe, avec Sébastien. Nous ferons partie du même gouvernement. Voilà. Et, enfin, je l'espère. Je l'espère. D'ailleurs, Sébastien, tu as mon numéro ?
Toujours.
Hein ? Alors, je te le redonne. 06 23 47 12 85. 85, hein, pas 87, 85.
Monsieur Ciotti, le budget de la Sécurité sociale est donc passé. Vous aviez voté contre. C'est une défaite pour vous. Hein.
C'est vrai que c'est une défaite. C'est une défaite, mais c'est aussi, notez-le, une victoire. Vous imaginez si nous avions gagné, Sébastien Lecornu aurait quitté Matignon. Donc, il aurait nommé Jordan Premier ministre jusqu'à la présidentielle, un an les mains dans le cambouis, et il aurait grillé forcément son capital sympathie. Donc, vous imaginez le gâchis, alors qu'il aurait pu être président, notre Jordan, en plus, avec Marine inéligible derrière, non, nos deux cartouches auraient été grillées, donc, pour la présidentielle. Donc, ça aurait été la cata. Non, non, heureusement, nous avons perdu.
Vous restez positif, hein, franchement. Hein.
Oui, c'est et oui, toujours positif. D'ailleurs, Marine et moi, si Marine et Jordan étaient grillés, après, dans l'organigramme, si je regarde bien, c'est Sébastien. Je reprends. Marine Miss France, en deux, c'est Jordan. Oui, c'est ça. C'est Sébastien, la troisième dauphine.
Ah,
donc,
oui.
Il est bien numéro 3. Non, mais on ne sait jamais. Oui, tout à fait. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je te donne quand même mon mail, hein,
voilà, du coup,
Sébastien. Donc c'est ericciotti@estrosibouffon.fr.
Voilà, merci.
Sur le portable, vous êtes trompé, le portable de Ciotti, c'est 0608. Ah.
Merci Eric Ciotti. Sébastien Chenu, donc vous vouliez lui répondre.
Oui, bonjour madame. Écoutez, vous remarquez, d'habitude je suis toujours très détaché sur tous les sujets. Bon, là, ce matin je suis un petit peu remonté parce que c'est vrai que nous avons vécu une forme de défaite hier. Mais pourquoi ? Parce que M. Lecornu s'amuse au zigzag, à la godille. Mais tout ça ne durera pas. Et, vous savez, j'ai toujours cet air détaché et confiant. Pourquoi ? Parce que madame de Malherbe, vous le remarquez, nous sommes à 37% dans les sondages. Nous allons être au pouvoir pour 10 ans. Voilà, donc ça... Ça donne une forme d'assurance, une forme de sérénité que j'espère vous aurez perçue chez moi. Victoire, défaite, appelez ça sur le budget comme vous le souhaitez. Moi, je vous le dis avec beaucoup de distance, tout cela est très accessoire.
Est-ce que les propos de Madame Macron, Monsieur Chenu, vous ont choqué, Salcone ?
Écoutez, tout cela est très anecdotique. D'abord, c'est moi ce qui me choque, j'aimerais le retenir.
Oui.
Parce que je retiens tout ce que je dis. Je n'aime pas qu'on vole les propos privés.
Oui.
Voilà. Madame Macron a beau être première dame, elle a le droit d'avoir des propos privés. Vous savez, avoir un langage privé, fleuri, pardonnez-moi, en privé, c'est une liberté. Putain, ça me fait chier, ça me casse les couilles, j'en ai plein le cul.
Oui, voilà. C'est ça, par exemple.
Ce sont des expressions courantes que chacun a pu employer ici ou là. Et puis, Madame Macron utilise tout le spectre et le registre que lui offre la langue française, étant elle-même experte, puisqu'elle est professeure de français. Je ne vois pas où est le problème.
Dans le
livre de Nicolas Sarkozy, Monsieur Chenu, on apprend que vous lui avez écrit plusieurs longues lettres.
Non, mais écoutez, madame. Certains écrivent des lettres au Père Noël. Moi, voilà, j'écris à Nicolas Sarkozy. Et voyez, ça m'a pas empêché d'avoir mon cadeau puisque j'ai eu deux livres qui m'en sont consacrés dans son livre.
Deux pages, oui, Monsieur Chenu. Mais enfin, tout de suite, on retrouve donc Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Oui, bonjour Pauline, ici Thibaut Texer, le journaliste qui avec sa seule voix peut te faire passer un budget à l'Assemblée nationale. On l'a entendu, le Rassemblement national est pour la réouverture des maisons closes. En plus de la disparition de Macron, ils veulent celle des macros. Et puis, l'enquête administrative sur le vol des bijoux du Louvre est formelle. L'objet le plus ancien du musée, c'est son système de sécurité. Et puis, Salcon, désireuse de faire oublier ses propos polémiques avec Harry Habitant. Brigitte Macron se rendra ce soir au spectacle de Dieudonné. Et puis, drame au comité Miss France, destituée après une vidéo dans laquelle elles insultaient d'autres candidates. D'après le comité, elles n'ont plus les qualités pour rester Miss France, mais elles ont tout ce qu'il faut pour devenir première dame. Michel Simès souhaitait intervenir.
Oui.
Eh oui, bonjour Marina. Une vague d'indignation après les propos de la première dame parlant de Salcone, mais aussi Miss France, Miss Provence, pardon, qui balance grosse pute. Moi, en tant que médecin, je crains que nous soyons face à une nouvelle pandémie de syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, cher connard. Oh, non. Je crois que je l'ai attrapé aussi.
Merci Michel Simès. Le budget de la sécurité sociale qui a été adopté, Jean-Michel Apathy est avec nous. Ça aurait échangé quoi qu'il soit adopté ou pas.
C'est très simple, ma chère Apolline, cher Sébastien Chenu, il le sait. Je vous explique un peu un budget de la sécurité sociale. Non voté, ce sont des dépenses qui ne sont pas maîtrisées. Sébastien Chenu sera d'accord avec moi. Donc des déficits qui s'envolent. On parlait même de 30 milliards de déficits si le budget n'était pas voté.
Et alors un budget voté, du coup, ça change quoi?
Un budget voté, c'est complètement différent, vous l'aurez compris. On l'a vu les autres années, ce sont des déficits qui s'envolent et à vue donnée, c'est du 30 milliards.
Bah, c'est la même chose alors.
Eh bien, c'est la France. C'est la France. Quoi qu'on fasse, on a déficit record, politique de droite, politique de gauche, du centre, c'est déficit. Voilà.
Oui, enfin, vous n'êtes pas très optimiste là.
Mais c'est pas que je suis pas optimiste, c'est juste que je sais compter. C'est tout. Les hôpitaux sont gratuits, les médicaments sont gratuits, les retraites tombent du ciel, et vous voulez que ça rapporte l'argent? Eh bien non, ça me coûte. Et quand ça coûte, eh bien ça veut dire déficit.
Eh bien merci pour cette belle leçon d'économie, Jean-Michel.
Mais attention, il y a des solutions. Il faut faire plein de bébés pour qu'ils payent tout ça. Hein, tenez, monsieur de Manche, monsieur Gage et madame Danjean, vous avez des enfants?
Non.
Et bien voilà, déficit. Dans ce studio, je vous le dis, il y a Capoline Balerbe avec ses 18 marmots qui renflouent les caisses de l'État, alors que les autres...
Rien, je sauve la France. Merci Nicolas, face à Cantelou, qu'on retrouve demain à 8h50 sur RMC. Merci aussi à Sébastien Chenu d'être resté avec nous.